Vous écoutez
RMC.
RMC. 18h-20h.
Rotten Régal spécial UEFA Euro 2020.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
18h sur RMC. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Rotten Régal pour la dernière de l'année. Et je suis très content de la faire la dernière de l'année avec Jean-Louis Tour, bien sûr. Salut Jean-Louis.
Salut Jérôme. Ça va? Salut tout le monde. Ça va très bien.
Excusez-moi, oui, maître pourquoi? Jean-Louis, oh, je vous vois toute l'émission.
Non, excusez-moi. C'est infernal, ça.
À quand Joe Biden, alors?
C'est à toi de nous le dire. Quand est-ce que tu l'appelles et que tu nous le cales?
Écoute, je vous laisserai faire.
Mais... Très bien. Non, celui qu'on devrait vous voyez, c'est lui, mais on le fait jamais. C'est Jean-Michel Larquet.
Exactement. Jean-Michel Larquet avec nous. Salut Jean-Michel.
Salut les artistes. Salut.
Ça va?
À côté d'un grand journaliste.
Ah, tu l'as.
Il a franchi un palier, qu'est-ce que tu veux.
Mais c'est toi qui l'as formé, hein, Jean-Michel.
Mais quel palier? C'est la même chose de faire Rotten Larquet ou Emmanuel Macron, moi.
J'ai pas eu l'impression hier dans la préparation de l'émission.
T'es pas si pareil dans Rotten Régal que dans Face au président.
Je te crois loin. Il a pas le t-shirt pourri qu'il a aujourd'hui. Hier, il avait une vraie chemise avec une cravate. Alors, il a voulu mettre la cravate.
Il a voulu mettre
la cravate, Jean-Michel, oui. Sauf qu'il n'arrivait pas à fermer le dernier bouton.
J'en étais sûr.
Donc, un peu comme Jeannot, en fait. Il y en a deux dans la rédac. Il y a Jean-Louis et Jeannot.
Non, mais quelle comparaison. Jeannot qu'on embrasse.
Jean-François Marc.
Oui, alors c'est l'accréditation de Jeannot. Effectivement, il nous racontera cette folle histoire tout à l'heure. Je vais reprendre la main parce que là, c'est quand même un Rotten Régal énorme qui est en train de se préparer. Déjà, l'Euro commence ce soir. On va en parler en détail. 21h, Turquie-Italie à Rome. Où se trouve Jeannot Rességuier? On sera sur place donc tout au long de Rotten Régal. On va débattre. Êtes-vous convaincu que les Bleus peuvent éviter l'excès de confiance? Est-ce que Deschamps offre cette garantie-là? 32-16, appelez-nous. On vous donnera les infos donc autour de l'équipe de France aujourd'hui. Et puis à 19h, on retrouve nos spécialistes du foot européen pour savoir qui est le favori derrière l'équipe de France, ou du moins de qui les Bleus doivent avoir peur. Ils seront tous là pour débattre. Avant de partir sur l'Euro, il y a du direct avec le tennis. La première demi-finale entre Zverev et Tsitsipas. Eric Salio et Sarah Bitkovski suivent cette rencontre. Bonsoir à tous les deux.
Alors salut Jean-Louis, bonsoir, c'est Anthony Reich et Florent Serra.
Presque.
Eric Salio, il est encore à la sieste, Jean-Louis.
Ah là, d'accord, très bien.
Il se prépare pour le ménage parce Nadal. qu'il a un certain Nadal. Djokovic a commenté après, donc on en prend soin.
Et Sarah aussi,
du coup.
Très bien, très bien.
Ouais, énorme combat. On vient de passer les 3 heures de jeu ici sur le central. Vraiment une demi-finale exceptionnelle. Et puis surtout un Alexander Zverev qui a complètement inversé la tendance, prenant les 3e et 4e manches. Et Tsitsipas a réagi, Florent. Il mène 1-0 dans cette 5e et décisive manche.
Heureusement, parce qu'en plus, il a sauvé des balles de break dès le début de cette 5e manche. Il essaye de jouer d'un peu moins loin sa ligne de fond de court. Zverev l'a poussé à reculer. Et depuis, il joue beaucoup plus court. Donc, on a vraiment un beau duel entre les deux. Mais il a de la ressource, Stefanos Tsitsipas. Je rappelle qu'il a gagné Monte-Carlo en début de tournée sur terre. Donc, c'est pas fini ce match.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure. Donc, avant donc le coup de tonnerre des droits télé, je vous rappelle que Jérôme et Captain vous offrent vos vacances dans un club Bellambra.
Oui.
Donc pour vous inscrire, vous envoyez vacances au pluriel avec un S au 732-16. Inscrivez-vous, vous serez peut-être tiré au sort.
Heureusement que ça se termine aujourd'hui l'émission.
Pourquoi?
Pour donner, on n'a plus rien là. C'est les derniers lots. Hein.
Exactement. En parlant de l'eau, les droits télé. Alors, dénouement donc. Aujourd'hui, on imaginait un dénouement. Aujourd'hui, ouais, c'est magnifique. En même temps, t'es spécialiste pour ça. Arthur Perrault nous rejoint. Il a suivi le dossier tout au long de la journée. Salut Arthur.
Salut messieurs, bonsoir.
Salut Arthur. Salut.
Alors, Arthur, on va refaire le fil de la journée.
Oui.
En sachant qu'on est dans une situation d'impasse actuellement, puisque Canal s'est retiré. Ça, c'est l'info vraiment immédiate. Mais refaisons le fil de la journée. Donc, aujourd'hui, il devait y avoir le dénouement pour l'attribution des droits télé de la Ligue 1 pour les trois prochaines saisons.
C'est vrai que tout s'est accéléré ce matin avec la décision d'abord de l'autorité de la concurrence, saisie justement par Canal+ pour abus de position dominante de la part de la Ligue de football professionnel. Cette plainte a finalement été rejetée pour manque d'éléments suffisamment probants. L'arrêt de cette série judiciaire a donc tout changé, permettant dans la foulée un accord. Il y a donc eu un peu plus tôt dans la journée, en début d'après-midi, un comité de pilotage des droits télévisés réuni à la Ligue de football professionnel avec deux offres, celle du binôme Canal-BeIN Sport et celle du trinôme, et là c'est une surprise, Canal, beIN Sports et Amazon qui avaient déjà candidaté au dernier appel d'offres. C'est cette deuxième proposition qui a recueilli l'ensemble des voix du conseil d'administration avec seulement une abstention pour un total de 663 millions d'euros. La chaîne cryptée devait récupérer ces deux affiches tant désirées le samedi 17h et le dimanche 21h. Amazon, lui, prend les 8 autres rencontres. Le géant américain diffusera aussi les 8 autres matchs de Ligue 2. Les deux chocs étant normalement sur beIN Sports, mais donc rebondissement il y a quelques instants, alors que la LFP s'est félicitée de cet accord. Je cite Vincent Labrune via ce communiqué. « Cette décision prise à l'unanimité du conseil d'administration, moins une abstention, permet au football français de bénéficier de l'arrivée d'un nouvel acteur majeur, Amazon. L'arrivée de ce nouvel acteur aux côtés de notre partenaire historique Canal+, est porteuse d'avenir pour le développement du football professionnel français et l'attractivité de nos compétitions. » Mais tu l'as dit, Jean-Louis, il y a quelques instants, communiqué de Canal+, qui annonce se retirer de la Ligue 1. La chaîne cryptée regrette la décision de la LFP de retenir aujourd'hui la proposition d'Amazon au détriment de celle de ses partenaires historiques. Je cite le communiqué, Canal+ ne diffusera donc pas la Ligue 1. C'était un peu le ressenti au moment du conseil d'administration, c'est-à-dire qu'il y avait en effet un peu un sentiment de revanche envers le binôme Canal-beIN Sport qui a longtemps tenu la dragée haute sur ce dossier, laissant une chance à Amazon, ce qui n'est visiblement pas du tout l'avis de Canal+.
Alors en fait, pour Canal, pour expliquer les choses, Canal en fait, ils se sentent vexés de l'arrivée d'Amazon. Eux, ils avaient leur plan en tête avec beIN qu'ils distribuaient. C'est comme s'ils avaient tout en fait.
Mais à aucun moment ils ne pensaient qu'Amazon allait revenir sur ce dossier.
Si, parce que on a fait Maxime Saada donc cette semaine dans l'After, et c'est vrai qu'il a été très clair là-dessus, qu'en effet, il n'a pas caché que lui, il y avait un lot qui l'intéressait, c'est-à-dire les deux meilleures affiches du championnat, et que derrière, ils avaient trouvé un arrangement avec beIN pour que beIN diffuse donc les fameux 8 matchs, les autres 8 matchs, mais qui ne s'interdisait pas, en effet, qu'il y ait un autre
candidat extérieur.
Exactement, qui arrive. Pourquoi pas Amazon, parce qu'il l'avait cité, hein. Il avait cité Amazon aussi. Nous, c'est vrai qu'on était sceptiques, sachant que il n'y avait pas eu de bruit derrière et que là, on est quand même limite dans le temps. Mais il y avait cette éventualité-là. Moi, ce que je comprends pas de Canal aujourd'hui, c'est que le risque, il est là, c'est que la somme qui a annoncé, on parle pas de 800 ou 900 millions, c'est que Canal avait bien dit, et Maxime Saada a bien répété, qu'aujourd'hui, ça valait ce prix-là. Une jauge entre 600 et 700. Voilà. Donc là, on est en plein dans ce truc-là. Oui. Donc, à l'arrivée, je pense.
Pourquoi se retirer alors ?
Pourquoi se retirer, sachant que s'ils n'ont pas mis assez, le risque était en effet que Amazon ou un autre se mette sur l'affaire. Qu'ils ont gagné ces lois, il faut se respecter. Maintenant, encore une fois, Canal fait vexer. Moi, je comprends pas. C'est pas parce que t'es le
partenaire historique
de la Ligue 1 que tu dois avoir des passe-droits. Bien sûr que ça s'est arrangé en termes de communication aujourd'hui avec la Ligue. Il l'a bien dit, Maxime Saada, qui s'y est rapproché de Vincent Labrune, mais qu'aujourd'hui...
Oui, eux, à mon avis, ils estiment qu'ils ont sauvé le foot français après la crise Media Pro, et ils trouvent qu'on ne leur renvoie pas suffisamment l'ascenseur avec cet appel d'offres, avec l'entrée en jeu d'Amazon, avec les 10 meilleures affiches qui auraient été sur Amazon et pas sur Canal. Là, en l'état actuel, avant que Canal ne se retire, PSGOM, c'était sur Amazon, c'était pas sur Canal. Donc, à mon avis, je pense que Canal se sent vexé et ne tire pas assez avantage de la situation.
Non, mais ils ont déjà été vexés de Media Pro, et Maxime Saada nous l'a expliqué. Il avait encore en travers de la gorge ce que le président Aulas avait pu mettre en place. Après, avec le temps, il faut aussi essayer de pardonner. Du moins, ils ont pardonné. La preuve, c'est qu'en effet, ils se sont remis sur la Ligue 1. Alors, si eux estiment qu'en ayant sauvé le football français, ça te donne des passe-droits et l'assurance d'avoir les droits, alors pourquoi sur les prochaines années, pourquoi avoir fait un appel d'offres ? Le risque, il est là. Il n'y a pas eu d'accord de ce côté-là.
Là, c'est pas vraiment un appel d'offres, quand même, hein, pour préciser ce qui s'est passé.
Non, parce qu'on a eu que deux offres de mise sur la table, comme ça. Oui. Et ce matin et hier soir pour Amazon.
Maxime Saada était prêt à partager. Il l'a dit quand même dans l'after, en disant moi je suis pas intéressé par l'intégralité de la Ligue 1. Oui. Il a dit je ne veux pas diviser toute la Ligue 1.
Oui. Prêt à partager à condition que ce soit lui, Maxime Saada, qui décide à qui il donne les parts du gâteau. Voilà. C'est. Je suis.
Il voulait BeIN.
Je suis magnanime, mais c'est moi qui décide. C'est moi qui décide qu'on passe à 18 au lieu de 20. C'est moi qui décide qu'on va prendre les deux meilleurs affiches, c'est moi qui décide où on va mettre les 8 autres affiches. Et j'ai bien écouté ce qu'a dit Maxime Saada tout au long de l'interview. C'est qu'à un moment donné, il était très énervé. Alors, c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité, parce qu'il a été très énervé il y a des années et des années de l'arrivée de TPS.
Mmh. Ouais, il a été
très énervé. Il a été très énervé il y a des années et des années de l'arrivée de Orange. Mmh. Il a été très énervé des années et des années
l'arrivée
de
l'arrivée de Bein.
De Bein. Il a été très énervé de RMC.
Ouais.
Qu'est-ce que vous voulez? Déjà, du temps de François Mitterrand, lorsque Canal Plus a été mis en place, ils ont eu mais des avantages incommensurables. Mais la concurrence, ça existe. Et de l'autre côté, ils mettent la Ligue de football professionnel devant les tribunaux pour, comment dirais-je, position de...
Abus de position dominante, non?
Abus de position dominante, exactement.
Mais qu'est-ce qu'ils font, Canal? Ils boudent parce qu'il y a d'autres diffuseurs. Ils boudent... C'est incroyable,
mettons-nous à la place des présidents de club. Mm-hmm. Donc là, ça veut dire que déjà ils attendaient l'argent pour l'année à venir. Ils s'étaient préparés.
Ils ont bien négocié, ils pensaient que ça allait rentrer.
Déjà ils s'attendaient à toucher deux fois moins que ce qui était prévu à l'époque de Mediapro. Mm-hmm. Mais surtout là, ils vont rien toucher avant encore des semaines, avant qu'on arrive à une solution de crise. Mm-hmm. Sachant qu'il y a des choses à faire, des besoins de trésorerie, de mercato, etc.
Solution de crise, dans quel sens, Jean-Louis? Parce que là, les droits, donc Canal se retire, mais Amazon reste. Donc,
Est-ce qu'Amazon est capable de récupérer ce que Canal avait?
Honnêtement, moi, je veux pas parler à leur place.
Oui.
Mais s'ils sont prêts à investir sur les 8 rencontres qui sont pas les 8 plus prestigieuses,
même prix.
On est d'accord. Non, mais c'est.
Redis-nous les prix.
Amazon, pour ces 8 autres rencontres dont tu parles, c'est 250 millions d'euros. Ouais. C'est le marché, on pensait à peu près à 300 millions. Mm. Pour Canal, ces deux affiches, c'est 332 millions d'euros. Mm. C'est qu'il y a quand même une marche. Est-ce que, alors oui, Amazon, visiblement, a apporté les garanties en disant voilà, on veut vraiment s'implanter sur le long terme dans nos championnats, parce qu'il y a aussi la Ligue 2, ils ont aussi les 8 autres rencontres de Ligue 2. Mm. On est prêt à s'implanter dans le long terme, mais est-ce que Amazon est capable de mettre autant d'argent dès le début, comme Mediapro l'a fait? Est-ce que Amazon ne pense pas à ça aussi?
Mmh. Ils sont arrivés sur la pointe des pieds avec Roland Garros, par exemple, hein, où ils ont les matchs le soir, mmh. et puis maintenant les demi-finales et la finale. Sur le football, en effet, peut-être qu'ils voulaient arriver comme ça pour, à terme, à moyen terme, tout rafler sur le prochain appel d'offres dans 3 ou 4 ans. Maintenant, je sais pas. Moi, ce qui me paraît surprenant, encore une fois, c'est le discours de Maxime Saada qui ne correspond pas avec ce qu'il a mis en place aujourd'hui. Là, ils font en effet les vexés en ayant été persuadés qu'ils avaient la ferveur des présidents et du président de la Ligue, et que quoi qu'ils mettent sur la table, de toute façon, dans leur stratégie, c'est eux qui allaient gagner.
Et l'autre truc quand même qu'on peut dire, c'est qu'on a l'impression que les présidents ne retiennent pas forcément la leçon. On peut imaginer, du moins on peut comparer avec ce qui s'est passé avec Mediapro, où ils sont allés peut-être au plus offrant, où ils ont eu envie de prendre leur revanche vis-à-vis de Canal.
C'est sûr.
Donc en tournant le dos aux partenaires historiques, c'est un peu la même chose que Mediapro. Attention quand même. Hein.
Oui, mais après, je pense qu'ils vont pas faire deux fois la même erreur. Vincent Labrune va pas faire deux fois la même erreur. C'est que non, mais en termes d'assurance.
Ah oui, bien sûr, ce que je veux dire, c'est que là, t'as perdu Canal dans l'affaire.
Amazon, ça paraît très solide quand même sur le coup. Alors après, il faut mettre un point d'interrogation parce que, en effet, c'est nouveau. Mais je suis pas sûr. Du moins, ça sera pas les mêmes bêtises que le président.
Évidemment, Amazon Kyo est plus fiable que Mediapro. Ça y ressemble.
C'est certainement pour ça. Et puis encore une fois, ils ont pas mis de côté Canal. Dire Canal avait cet accord avec Bein et a toujours dit, on veut principalement deux affiches. Mmh. Ils avaient les deux affiches. Alors après, en effet, il y a cette fameuse, c'est pas les 10 meilleures affiches, c'est ça?
Non, c'est ça, exactement.
Ouais. Donc peut-être que là, ils sont vexés sur ce point-là, parce c'est sûr que les PSG Marseille, Marseille PSG, et puis d'autres belles affiches du championnat, si en plus de ça, tu ne les as pas sur Canal à 21h le dimanche soir, là, ça peut poser problème.
Alors, qu'on va faire, Arthur, on te laisse aller passer quelques coups de fil, essayer d'avoir des réactions un peu plus en détail côté Canal, côté Ligue, côté président dans le club, et tu reviens quand tu veux dans Rotten Regal avec plus d'infos. Merci Arthur Perrault.
Merci Arthur, avec des arguments solides. Non,
mais là, il est excellent. Ouais. Moi, excellent. Très clair.
Je pense que ton contrat t'attend dehors. Là. Merci. Je pense que Antoine, là, entre les mains.
Dans un instant, on lance l'Euro. C'est ce soir, 21h, Turquie-Italie. On parle de la journée des Bleus. Deschamps est-il l'arme anti-excès de confiance? Appelez-nous au 32-16 pour débattre. A tout de suite.
RMC 18h-20h Rotten Régal spécial UEFA Euro 2020.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
18h17 sur RMC, toujours dans Rotten Régal, bien sûr, avec Jean-Louis Tour, Jean-Michel Larquet. Voilà, on a fait le premier thème sur la bombe qui est sortie avec Canal+ et donc Amazon, le nouveau diffuseur de la Ligue 1. Une exactement. Partie en tout cas.
Ouais.
Maintenant, on va parler foot un peu.
Exactement, c'est avec Marcel Desailly, champion du monde 98, vainqueur de l'Euro 2000, avec nous dans un
immense
instant pour
Marcel.
Évoquer cet Euro qui débute ce soir, 21h, Turquie-Italie. On fait le point juste avant à Roland-Garros, Zverev, Tsitsipas, le 5e set, Florence Serre, Anthony Reich.
Et 4-1 pour Stefanos Tsitsipas, le meilleur joueur mondial de cette saison en cours. Il a réagi, le grec, après la perte des 3e et 4e manches. Et Alexander Zverev marque un petit peu le pas, Florent.
Oui, c'est vrai qu'il a fait beaucoup d'efforts aussi pour revenir de 2-7-0. Il a remporté le 3e et le 4e en produisant un excellent tennis, comme il avait pu faire aussi contre Kei Nishikori. Et il a eu les occasions de breaker ce qu'on disait tout à l'heure dans le premier jeu de cette 5e manche. Il a eu une occasion, qui ne fait pas une petite faute directe. Et derrière, ça a aussi redonné un petit peu de confiance à Tsitsipas qui bouge toujours aussi bien, on va dire, physiquement, il est toujours aussi affûté et il a fait la différence. Ça va être compliqué pour Zverev, mais l'attitude est là, donc il va essayer de revenir.
On revient pour une éventuelle balle de match, j'allais dire, enfin en tout cas le dénouement de ce 7-4-1, Tsitsipas face à Zverev. L'Euro, ça y est, on y va ce soir, allez. C'est le début de la fête.
L'équipe qui gagne la compétition, c'est celle qui en veut le plus. Mais ils peuvent le faire. En tout cas, c'est l'objectif assigné.
Allez, Michel. Voilà. Oui, Michel.
Oui, Michel. Oui, on efface tout et on recommence. C'est une lucarne de Michel Platini.
La chose la plus importante, c'est que le groupe est toujours soudé. On veut inspirer la jeunesse. On veut qu'ils aient des belles choses à vivre aussi.
Il est dans la surface. Allez, le centre, oui. C'est fini.
La qualité, elle est là. Évidemment, je le sais, vous le savez. La conscience d'avoir beaucoup de force. Et on aura besoin de tout ça pour ce qui nous attend.
Il y a du monde, il y a Trezeguet. Oui, l'équipe de France est championne d'Europe.
RMC, UEFA, Euro 2020.
Coup d'envoi dans 3 heures.
Exactement, coup d'envoi 21h donc de Turquie-Italie. Alors évidemment, comme à chaque grande compétition, RMC vous propose un dispositif exceptionnel. Tous les matchs en intégralité seront sur RMC. La Dream Team est mobilisée pour analyser ces rencontres menées par Captain Larquet et Jérôme Rotten, bien sûr.
Ouais.
Nos envoyés spéciaux.
Trop d'honneur, Jean-Michel, quand même.
Ah, quand même. Ouais. Ça reste un patron.
Il s'accroche.
Ça reste un patron.
Il s'accroche à la caravane.
Et puis, nos envoyés spéciaux un peu partout en Europe vont nous relater ce qui se passe autour de la compétition et nous commenter les rencontres. Direction Rome, tout de suite, où se trouve Jeannot Rességuier. Salut Jeannot.
Bonsoir tout le monde.
Salut Jeannot.
Bonjour Jean-François.
Bonjour Jean-François Marc, effectivement. Ça les a perturbés. Bah, j'ai trois prénoms sur mon passeport. Les trois prénoms apparaissent sur l'accréditation et à chaque compétition internationale, j'y ai droit. Je passe 2 heures pour leur expliquer ce que c'est que ces trois prénoms. Il y a une virgule entre chacun et informatiquement, ils ont des problèmes à sortir l'accréditation. Ils ont fini par la sortie. C'est donc essentiel.
Alors Jeannot, est-ce que tu sens un parfum d'euro?
Non, très honnêtement, par rapport à toutes les compétitions que j'ai vécues, celle-là, elle est particulière. Elle est tout simplement hors norme et inédite parce que il y a bien évidemment le décalage d'un an, il y a la Covid avec ce qui se passe encore un petit peu partout en Europe avec des règles et des passes sanitaires qui ne sont pas les mêmes, des stades qui auront des jauges réduites. Ça va être le cas ce soir avec 16 000 spectateurs, seulement 25% du stade Olympico, 3 stades dont Saint-Pétersbourg, Bakou et Budapest, où l'équipe de France jouera 2 de ces 3 matchs du premier tour, seront quasiment remplis à 100%. Et dans les villes, en tout cas pour ce que j'ai pu constater moi à Rome, dans les villes, on respire pas l'euro comme c'était le cas avant. Oui, il y a des flyers, il y a des logos, il y a des drapeaux, mais il n'y a pas beaucoup de supporters avec le maillot de l'Italie, par exemple. J'ai pas vu beaucoup de supporters avec le maillot de la Turquie. Mais il y a quand même cette fierté ici en Italie d'être... le match d'ouverture, d'avoir toutes les caméras du monde et d'Europe tournées sur le stade Olympico et la fierté justement d'accueillir ce match et cette cérémonie d'ouverture, parce qu'ils ont un peu en travers le fait d'avoir été absent de la Coupe du Monde 2018, et qu'avec Roberto Mancini ça va beaucoup mieux, qu'il reste sur 27 matchs toutes compétitions confondues avec la Ligue des Nations, dont ils accueilleront la finale à 4 en octobre prochain avec la Belgique, l'Espagne et la France. Ils ont retrouvé le sourire, ils ont retrouvé on va dire une certaine fluidité, une stabilité dans le jeu, et qui leur permet d'espérer peut-être d'aller loin. Et puis en plus, ce match d'ouverture, ce sera contre la Turquie. La Turquie, c'est la grosse cote, qui n'a jamais battu l'Italie. Donc voilà, il y a une ambiance particulière autour du stade, ouais. Un petit peu, là sur les dernières heures qui vont précéder cette rencontre et la cérémonie d'ouverture. Mais ça reste et ça restera un euro particulier.
Okay.
Même si peut-être après cette première journée, ça va commencer à déclencher différemment à Amsterdam pour les prochaines rencontres, ou bien à Saint-Pétersbourg pour les prochains matchs.
On va surveiller tout ça. Merci Jeannot, merci à tout Jeannot. À l'heure pour un avant-match complet donc de Turquie-Italie. Oui Jean-Michel, tu voulais dire un truc là ?
Non, que c'est une fausse bonne idée hein, de mettre des matchs à droite et à gauche, de Bakou jusqu'à Wembley. En fait, le club organisateur ou le pays organisateur, me semble-t-il, j'ai regardé un petit peu le calendrier, c'est l'Angleterre.
Oui, oui.
C'est l'Angleterre.
Oui et non.
Les Anglais peuvent quand même jouer 6 matchs à domicile, dont la finale, Jérôme.
Oui, non, c'est vrai. Mais concernant les Anglais, c'est le cas aussi.
C'est une fausse bonne idée parce qu'effectivement, pour 2-3 matchs, eh bien, on ne met pas les petits plats dans les grands, que ce soit à Rome, à Saint-Pétersbourg ou à Bakou. Ce n'est pas véritablement le pays organisateur de l'euro, ou les pays, lorsqu'il y avait Suisse, Autriche ou Belgique, Pays-Bas. Effectivement, s'il y a un petit peu dispersion des énergies et dispersion de l'engouement.
Ouais, où là je te rejoins sur l'engouement. Alors après, est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée? C'est vrai qu'ils ont voulu marquer le coup avec les 50 ans de l'euro, mais
fausse bonne idée.
Je pense que par rapport au contexte, en tout cas, c'est sûr que l'engouement va être encore différent. Déjà, qu'il aurait été différent, même s'il n'y avait pas eu cette crise sanitaire, parce que chaque pays ne peut pas s'approprier l'euro, en tout cas. Et en plus, avec cette crise sanitaire où il y a moins de gens dans les stades et moins de ferveur, ouais. Bah forcément, ça se ressent d'autant plus, comme l'expliquait Jeannot.
Précise que c'est pour les 60 ans de l'euro, pas pour les
60 ans.
Voilà.
Oui, 1960-2020, oui.
Ouais, l'équipe de France.
J'ai raté 10 ans.
On y va, oui, c'est pas grave. Loïc Tanzi nous rejoint. Salut Loïc.
Salut à tous.
Salut Loïc. Qui suit les bleus au quotidien. Quels sont les
boudeurs? C'est le boudeur alors. C'est Loïc.
Il a arrêté de bouder, Loïc, je pense.
Ouais,
un petit peu
hier, aujourd'hui ça va.
Mais tout le monde a arrêté de bouder, même Mbappé a arrêté de bouder.
Ah bah il est devant moi à l'entraînement.
Alors, il boude ou pas?
Actuellement.
Non, devant lui, c'est
beaucoup mieux qu'hier. Beaucoup mieux qu'hier pour Kylian Mbappé, qui est souriant, qui a envie de participer à la petite opposition qu'il y a devant nous. Donc tout va bien pour Kylian Mbappé.
Il y a eu
Mbappé,
la collade avec Giroud ou pas?
Hier, en fin d'entraînement.
C'est surtout Giroud qui lui a fait la collade.
Exactement, t'as vu les images, je pense, Jérôme, pour dire ça, oui.
Alors les infos du jour, qui est présent à l'entraînement, qui ne l'est pas?
Alors il y a 3 joueurs.
Ça vient, attention là, pour le porteur de balle.
De l'entraînement. Raphaël Varane, donc par précaution, qui n'est pas là. Il a beaucoup joué durant la saison avec le Real Madrid. Il a eu quelques pépins physiques aussi. Le défenseur central, donc il reprendra demain l'entraînement. Et sur le terrain annexe, donc juste à côté du terrain Pibaro ici à Clairefontaine, on a Karim Benzema et Antoine Griezmann qui sont en train de s'entraîner tout seul là. Karim Benzema par exemple est en train de faire des gammes de passes avec un préparateur physique. Donc les deux devraient revenir soit demain, soit dimanche, probablement demain pour Karim Benzema, peut-être dimanche pour Antoine Griezmann, qui vient de finir sa séance individuelle et qui est en train de rejoindre ses coéquipiers, va regarder la petite opposition qui a lieu en ce moment sur le terrain de Pibaro à Clairefontaine.
Ouais, aucun problème là.
C'est bon signe. De toute façon, on a vite été rassuré dans tous les cas. Après, on peut pas être dans la cuisse de Karim, mais quand tu vois l'impact qu'il y a eu, cette béquille qui est une grosse béquille qui s'est transformée en contusion, forcément derrière il y a des soins à mettre en place, mais c'est pas, il y avait rien d'inquiétant en tout cas. Moi j'étais persuadé qu'en 2-3 jours il allait récupérer, c'est le cas, donc c'est très bien. L'équipe de France sera dans ses meilleures dispositions pour jouer en Allemagne, et c'est là-dessus que c'est bon signe.
Et en plus, il n'y a plus de problème donc entre Mbappé et Giroud.
Ouais, du moins, le problème, il a existé. Là,
mais ouais.
Après, Giroud, il a été bien réglé. En gros, et on l'oublie pendant la durée de la compétition.
Voilà, oui, voilà. Après, c'est pas les meilleurs amis du monde, mais ça, on s'en fout. Il faut avancer, il faut pas rester sur des on-dit. Je pense qu'il y a eu une explication. On en a parlé hier, hein, déjà, nous, dans l'after, mais, et vous aussi, certainement. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent dans un groupe.
Mais il faut que ce soit géré quand même. Il faut pas que ce soit mis sous le tapis.
Il faut que ce soit géré. Après, il y a le nouveau statut de Kylian Mbappé à gérer aussi, et l'attitude qu'il a et qu'il a eu par moment, et on l'a mis en avant avec le Paris Saint-Germain. Voilà, il doit aussi se rendre compte que il y a des choses à pas faire quand t'es un joueur leader.
Merci Loïc Tanzi. Dans un instant, Marcel Desailly, invité de Roten Régal, le champion du monde 98 et 2000, va nous aider à lancer l'Euro sur RMC. C'est ce soir 21h, le premier match Turquie-Italie. À tout de suite.
RMC
18h-20h
Roten Régal spécial UEFA Euro 2020.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h30, toujours dans Roten Régal, bien sûr, sur RMC avec Jean-Louis Tour, Jean-Michel Larquet. Jean-Louis, avant d'accueillir Marcel Desailly, il y a quelqu'un qui va nous présenter son journal moyen.
Adrien Aiguin, ah, salut Adrien.
Salut.
Le dernier de l'année.
Ce qui est bien, c'est que tous les bons clients, là, toutes les stars de la Dream Team sont déjà en mode euro. Ça s'est entendu pendant France-Bulgarie. Et puis même sur M6, Robert Pires, c'était déjà en mode euro.
Ouais. Très bien, Adrien. Tout à l'heure, 18h45, balle de match. Tsitsipas face à Zverev, Florence Serra, Anthony Reich.
Et c'est la quatrième balle de match du Grec et Alexander Zverev vient de la sauver remarquablement avec un service, une première balle bien appuyée. Il est sur le fil du rasoir, Alexander Zverev, Florence.
Ouais, heureusement que la première vient au bon moment, on va dire, parce que du fond du court, c'est de plus en plus dur. Il commet quelques fautes, mais pour l'instant, le service lui permet d'espérer. Peut-être pour faire servir Tsitsipas. J'aimerais voir aussi le Grec. Ça serait sa première finale en Grand Chelem. Il peut aussi se crisper. On est à 40 à
5-2 dans ce cinquième set et l'échange est engagé. Si vous voulez vivre ce point qui va peut-être offrir une cinquième balle de match et peut-être du coup une finale, une première finale de Grand Chelem pour Stefanos Tsitsipas. Et coup droit dans le filet. Alexander Zverev est toujours en vie. Il va peut-être revenir à 5-3 dans ce cinquième set.
Alors très bien, très bien. On va quand même suivre donc la balle de jeu et après on accueillera Marcel Desailly.
Parfait. Alors Alexander Zverev là qui va prendre ses balles, il prend son temps, on le sent. Un peu de fatigue, Florent, parce qu'on est à 3h30 de combat avec une grosse chaleur aujourd'hui à Roland-Garros. On a frôlé les 30 degrés et il fait très chaud sur le court Philippe Châtrier. Les deux hommes ont vraiment pris le soleil. Et là, on va voir ce que va faire Alexander Zverev sur cette première balle de service. Avantage pour l'Allemand. Le premier service est dans le fil. Il va y avoir une deuxième balle à jouer pour essayer de rester en vie dans cette demi-finale. On le rappelle, Stefanos Tsitsipas mène 5-2 dans la cinquième manche décisive. Il est tout proche, le Grec, de se hisser pour la première fois de sa carrière en finale d'un grand chelem. Et il reste sur deux demi-finales en grand chelem. Et là, c'est vraiment l'ultime chance de survie d'Alexander Zverev, Florent.
Heureusement que il est là, parce que je peux vous dire que Zverev, je parlais de son service, parce que sinon, il serait déjà au vestiaire sur ces deux balles de match. Seconde balle, elle est bonne.
C'est parti, l'échange s'installe. Bon retour de Stefanos Tsitsipas en revers. Et Alexander Zverev qui peut-être est de plus en plus nerveux. Il part à la faute en coup droit. Égalité, on va peut-être avoir encore une balle de match côté Stefanos Tsitsipas.
Jérôme, qui va gagner?
Bon, là, je pense que Tsitsipas, le Grec, il est bien parti quand même. Mais quel match quand même entre ces deux joueurs là,
c'est combat, fabuleux. Ouais, Jérôme, énorme combat. Et puis c'est fou comment ça s'est inversé. On a d'abord eu deux sets impeccables de Stefanos Tsitsipas qui a pris les deux premières manches 6-3-6-3. Puis derrière, Alexander Zverev au forceps, au combat dans le jeu du fond du court a bien renversé la tendance, Florent.
Ça fait quand même 3h32 qui sert à 210 de moyenne Zverev avec des petites pointes au-delà de 220. Donc il en voit bien. Le problème, c'est qu'il démarre timidement et il se fait tout de suite prendre à la gorge. Et le problème, c'est qu'il réagit. Mais troisième, quatrième set, il a fait beaucoup d'efforts. Et là, il accuse un peu le coup dans cette cinquième manche physiquement, parce que Tsitsipas le fait beaucoup courir. Il trouve un tout petit peu plus d'angle et il fait un peu moins d'erreurs. Il rate un petit peu plus dans ce set.
Allez, c'est parti pour ce point égalité. Bon service extérieur d'Alexander Zverev. Nouvel avantage pour l'Allemand. Toujours en vie. Donc, c'est dommage parce que là, Tsitsipas avait peut-être une occasion de de
c'est
reprendre.
C'est bien servi quand même.
Ouais, c'est bien servi. Bah, y a rien à dire. Hein, c'est un service extérieur impeccable. Il en a fait beaucoup pendant cette rencontre d'ailleurs, Alexander Zverev sur ce côté-là. Avantage donc pour l'Allemand qui va peut-être recoller à 5-3 dans cette cinquième manche décisive sur le central dans cette demi-finale. Il va avoir une première balle à jouer, Florent.
Ouais, première. S'il choisit le T cette fois-ci. Et ça passe, toi encore service, service gagnant. Gagnant donc
service gagnant, il est toujours en vie. Il est toujours en vie, Alexander Zverev. 5-3 de Tsitsipas dans cette cinquième manche.
Très bien, merci, merci messieurs. Évidemment, on ne rate rien de cette rencontre, comme on ne ratera rien non plus de Djoko Nadal.
Bien sûr.
Ce soir, tous les matchs sur RMC.
On sera
évidemment.
Plus là, vu l'heure du match.
Ah, nous, on ne sera plus là. Non. Effectivement. Alors, événement, donc, puisqu'on est avec notre invité Marcel Desailly, que tu as connu pendant l'Euro 2004. Jérôme.
Exactement.
Vous avez cette compétition en commun.
2003
donc.
Aussi, la Coupe des Confédérations.
Ah oui, aussi, c'est vrai. Mais comme on lance l'Euro, là, je restais sur l'Euro 2004,
mieux,
hein, bien
mieux.
Sûr.
C'est
Marcel Desailly, champion du monde 98 et champion d'Europe 2000 et dans Rotten Régal.
Salut Marcel.
Salut les gars, j'espère que vous avez la pêche.
Ah, on a la pêche, comme toi. Toi, t'as toujours la pêche. Et puis moi, ça me fait plaisir de recevoir une légende, hein, parce que tu fais partie des légendes du football français, ça c'est sûr.
Non, mais... Je suis un gros poisson.
Oui, maintenant, t'es un gros poisson.
Ouais. Poisson, ouais. Voilà.
Bon, déjà, outre le fait que comment tu vas, ça a l'air d'aller. Comment tu prévois, comment tu vois l'euro de l'équipe de France?
Bah, ça a l'air d'aller, ça va bien dans la mesure où on a une qualité de collectif incroyable au sein de l'équipe de France. On retrouve du public, il y a du football, on y croit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une équipe de France avec un vrai statut, un statut de champion du monde, un statut individuel et collectif qui fait qu'elle peut aller au bout, et on le sait d'entrée de jeu. Donc un peu à l'image de nous en 2000, où on sent qu'ils peuvent nous la refaire, cette folie de victoire.
Ouais, tu sens qu'il y a un rapprochement. C'est vrai que le parallèle est intéressant et nous on se pose la question parce que moi je l'ai pas vécu avec vous, mais après 98, ces titres de champion du monde, tu penses qu'il y a en effet le parallèle avec l'équipe de France d'aujourd'hui, quoi.
Alors ils sont un petit peu plus en paix aujourd'hui, je crois, puisque nous on était restés sur le sentiment que 98 on n'était pas les meilleurs et 99, 2000, 2001 jusqu'à 2002 où on a chuté. On avait à cœur de prouver qu'on était vraiment la meilleure équipe sur le marché. Alors que cette nouvelle génération, elle n'a pas vraiment à prouver quoi que ce soit. Ils ont une forme d'insouciance que nous, on n'avait pas, malheureusement.
Mmh. Ouais.
Mais il y a du talent dans cette nouvelle équipe qui fait qu'ils ont plus à cœur de se retrouver à travers la culture de la gagne qu'ils ont développée pour aller au bout. Si tu regardes bien, quasiment tous les joueurs de l'équipe de France aujourd'hui, les jeunes, la nouvelle génération 2018, ont connu des difficultés en club. Et le fait de se retrouver aujourd'hui va donner, pour cette nouvelle compétition, une énergie collective incroyable.
D'accord. Quand tu parles de parallèle, du moins, je te trouve un peu dur déjà avec 98, mais c'était un peu pareil en 2018 en fait. Sur la victoire de la Coupe du Monde, j'ai pas l'impression que les Français se sentaient supérieurs aux autres. Alors ils ont été champions du monde comme vous en 98, et là on est là pour applaudir et dire bravo. Mais derrière, moi je trouve que on le voit à travers le discours de Didier Deschamps, même les dernières performances, la soif de vaincre. Moi je trouve en effet qu'ils sont dans le même état d'esprit que vous. Comment vous abordez l'Euro 2000? Du moins, là, peut-être que c'est le moment pour eux de dire, oui, là, on est les plus forts.
Oui, je confirme. S'ils sont comme ça, dans cet état d'esprit, c'est magnifique. On a pu battre le Danemark, la République tchèque, les Espagnols, les Portugais et les Italiens.
Mmh.
Et malheureusement, on a perdu contre les Hollandais, mais ça nous a arrangé un petit peu pour rester dans en Belgique. Mais... oui, là, ils auront à cœur dans ce groupe déjà, Allemagne, Portugal et Hongrie, de prouver que oui, effectivement, ils sont l'équipe à battre et qu'ils vont raser avec le titre, avec le prestige d'être champion du monde. Ils vont à nouveau prouver qu'ils sont les plus forts. C'est la meilleure génération. Ils sont dans le cycle positif.
Mais justement, est-ce qu'il ne faut pas se méfier? Marcel Desailly est notre invité. On le retrouve dans une seconde. Mais le tennis, c'est fini. Première demi-finale à Roland-Garros. Et donc, Tsitsipas en finale. Florent Serra, Anthony Reich.
Oui, ça vient tout juste de se terminer sur un ace pour Stefanos Tsitsipas qui s'impose dans cette demi-finale face à Alexander Zverev après 3h37 de combat et 5 manches, 6-3 dans la dernière et ultime manche de cette demi-finale pour la toute première fois de sa jeune carrière. À 22 ans, le Grec se hisse donc en finale d'un grand chelem. Il défiera le vainqueur du grand défi, du grand duel ce soir entre Rafael Nadal et Novak Djokovic.
Il peut inquiéter, à votre avis, messieurs, Nadal, en finale? Bon, c'est pas Nadal encore qui est qualifié, hein. Il y a Djokovic,
ouais.
Mais...
Ouais, t'as juste Djokovic en face aujourd'hui. Bon, et si vous partez sur la finale de l'année dernière, on va dire, on attendait tous que Djoko peut être vainqueur pour une fois, mais Rafa...
Je disais que Djoko est moins impressionnant quand même que Rafa sur ce tournoi.
Un petit peu, mais par contre, il a fait deux premiers sets monumental contre Berrettini, ouais. Et après par contre il a vraiment eu une petite baisse de régime, ouais. Et c'était plus du tout le même joueur sur le troisième et quatrième set. D'ailleurs vous l'avez vu comme il a exulté, je pense qu'il était super tendu. Mais s'il joue de la même manière dans les deux premières manches, il peut gêner Rafael.
D'accord, et ben rendez-vous tout à l'heure pour la deuxième demi-finale. On a retrouvé Marcel Desailly. Mais justement, est-ce qu'il ne faut pas se méfier de ce cycle positif, peut-être trop positif? Est-ce qu'il y a un risque d'excès de confiance? En plus, avec le retour de Benzema, tout le monde dit qu'on a la meilleure équipe du monde. Même les joueurs ont dit qu'on avait la meilleure attaque du monde. Est-ce que ce risque d'excès de confiance existe?
Non, pas vraiment. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une forme d'insouciance et il y a une vraie envie de rester sur la culture de la gagne. Ils sont jeunes, ils sont forts, ils sont talentueux. Il n'y aura pas ça. Ils ont un côté... professionnels qui, à l'apparence, comme ça, on n'a pas l'impression. Mais c'est des killers. On a vraiment une équipe de killers, jeunes, mais qui a envie de continuer l'aventure. L'arrivée de Benzema, c'est bien, ça équilibre un petit peu, parce que Didier a tout de suite identifié que Giroud est toujours là. Qui dit que Benzema, il va jouer? Voilà, c'est Giroud avant tout, qui n'a pas trop de temps de jeu. Donc, avoir ramené Benzema, ça insuffle. Forcément, on le voit en club. Chaque année, il faut ramener un nouveau joueur pour permettre de continuer à gagner les différents championnats ou objectifs. Et là, en l'occurrence, avec Benzema, ça a insufflé un petit quelque chose, sans qu'il ait la garantie de jouer.
Pour vous, il n'est pas titulaire indiscutable. Pour vous, Benzema, il n'est pas titulaire indiscutable. Ça reste Giroud.
Il était arrivé à un point où il était impossible de le laisser de côté. Maintenant, il est dans le cadre France, groupe France. Non, il n'est pas titulaire indiscutable. Qui dit, après on parle de complémentarité, qui dit que la complémentarité Giroud, et il l'a prouvé, elle n'est pas mieux que celle de Benzema avec Griezmann et Mbappé.
Oui, mais
ça,
on
c'est au sélectionneur de décider.
Oui, t'as raison là-dessus, Marcel, mais dernièrement, on a quand même vu l'altercation entre Giroud et Mbappé. Du moins, on a vu l'entrée de Giroud. Mbappé qui n'a pas forcément joué pour Giroud et qui se plaignait, Olivier, de ce manque de ballon. Tu ne penses pas que ça peut créer quelques tensions et surtout aller dans le sens du sélectionneur?
Monsieur Roten, meilleur passeur. Côté gauche, je te vois débouler sur ce côté gauche.
Ah, j'allais vite. Hein.
Les ballons, t'allais très très vite. Il y a eu quelques années où t'étais insaisissable. Ouais. Ouais. D'autres années, on arrivait à t'accrocher.
Oui, c'est vrai.
Il n'en reste pas moins vrai, messieurs, tu le sais mieux que moi, que ça reste dans l'intensité du jeu. C'est rien. C'est rien ce qui s'est passé. C'est rien quelque part. Je parlais tout à l'heure de la culture de la gagne. Mmh. Ils vont passer au-dessus de ça pour aller chercher cette énergie et ils vont accepter ce que Didier va mettre en place.
Oui, mais tu me parlais de complicité, Marcel. C'est là-dessus, de complémentarité où plus ou moins, toi, tu penches sur Giroud par rapport au fait qu'ils se connaissent et ils ont gagné déjà la Coupe du Monde avec Olivier Giroud et que là, avec Benzema, c'est autre chose. Mais t'as pas l'impression quand même que le jeu, par exemple, de Griezmann et de Mbappé correspond totalement à ce que Karim Benzema peut amener?
Non, mais la qualité première de Benzema, justement, c'est de pouvoir s'adapter aux coéquipiers qu'il a. Et d'être une vraie valeur ajoutée. Il l'a montré tout au long de cette saison, de ces deux dernières saisons, où on a perdu, il a perdu Ronaldo, et tout de suite il s'est adapté au schéma avec Vinicius sur le côté, avec Isco qui a tourné autour de lui. Il a su s'adapter. Mais maintenant, je vous dis encore, Didier a le choix de voir et de décider quelle sera la meilleure complémentarité pour son groupe. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'histoire. Benzema, c'est fantastique de l'avoir retrouvé. Maintenant, laissez Didier choisir sa meilleure option avec sa sensibilité avec lui. Tu sais bien, Monsieur Roten, tu sais bien, à l'entraînement, là, c'est le coach qui décide. Il voit un peu l'énergie, les mouvements, les paroles, les... Voilà. Donc,
puis toi, tu lis très bien Didier Deschamps en plus, parce que bon là, tu nous livres des conversations privées que tu as eues avec lui, donc ça c'est intéressant.
Oui, je peux dire oui, dans la mesure où je laisse la porte ouverte aux sélectionneurs de décider. Elle est là cette valeur ajoutée.
Bien sûr,
Marcel. Didier. Il nous a fait une Coupe du Monde en 4-2-3-1. Là, il va peut-être nous faire un 4-3-3. On ne sait pas.
Marcel Desailly dans Roten Régal. Alors, la compétition que vous avez en commun. C'est donc l'Euro 2004.
Oh là, j'étais au summum et Marcel, il était.
Pas, alors, au summum.
Il était.
Bah, ah bah bon. Moi, ça retombait. Moi, je dois avoir 35 ans, quelque chose comme ça.
Ouais, ouais. Non, moi, j'ai l'impression que tu avais été très bon sur cette compète.
Alors, je m'étais blessé un petit peu avant la compétition.
C'est vrai.
Et c'était le deal avec notre entraîneur.
Jacques. Il s'appelait Jacques Santini.
Notre sélectionneur et ami Santini. Et donc, j'ai pas pu après. Revenir dans le rythme de jeu, mais c'est un plaisir d'être à vos côtés en tant que capitaine et vous.
Et Jérôme, il était comment dans le groupe à l'époque ?
Non, il appréhendait les matchs comme il le fallait. Il est talentueux, donc c'est facile, c'est la créativité. Il avait faim, il avait envie de montrer son talent et il nous l'a montré. Malheureusement, les Grecs nous ont coupé l'herbe sous le pied, quart de finale, et voilà, et ça n'a pas marché. Donc. Il a vécu un euro intense, notre ami Roten.
Et vous avez connu son prénom très vite ?
Qui ?
Est-ce que Marcel, il a connu ton prénom vite ?
Mon prénom ?
Parce que parfois, avec les remplaçants, Marcel...
Non, c'était pas Marcel. Marcel, non. C'est vrai que là...
J'ai pas d'autres champions du monde 98 m'ont raconté ça.
Non, déjà, Marcel, c'est très sympa ce que tu dis sur moi, mais moi, à l'inverse, moi, c'est vrai que j'ai... Quand t'es un jeune footballeur et que tu vois... moi, je vous ai idolâtré avec 98 et 2000. Franchement, c'était une fierté énorme d'avoir des joueurs comme ça, un capitaine comme toi. Franchement, j'ai rarement eu j'ai pas forcément eu la possibilité de te le dire, mais là j'ai envie de te le dire que t'étais exemplaire et t'étais un vrai exemple pour nous les jeunes.
Je t'aime mon ami, je t'aime. Voilà. Et pour répondre à la question au sujet de, c'est vrai que pendant la carrière j'étais assez focalisé sur mon adversaire que j'étudiais, savoir s'il faisait ses déplacements à droite, à gauche. Et je me souciais pas trop du reste de l'équipe et de l'animation qu'allait se défensive ou pas qu'allait se réaliser. Je restais concentré sur mon sujet. Ouais. Et ça m'a beaucoup servi parce que ça n'a pas dilué un peu mon attention. Et j'ai pu faire une carrière honnête.
Marcel, pour en revenir un peu à plus globalement l'Euro, outre les Français, parce que j'ai compris que tu les voyais comme moi à un très bon niveau et favori de cet Euro, est-ce que tu vois une autre équipe capable de décrocher ce titre-là ?
Bah oui, il y en a au moins quatre. Les Portugais, individuellement, ils ont rehaussé un petit peu leur niveau, si Cristiano reste à son niveau habituel. João Félix, etc. Il y a du beau monde. Hein. Maintenant, je pense que les Anglais sont un peu encore trop tendres. Il y a des individualités, mais il n'y a pas une équipe. Il n'y a pas d'équipe encore.
Même avec le calendrier, en ayant la chance de recevoir quasiment tout le temps ?
Oui, non, je ne pense pas. C'est une histoire de cycle. Mmh. On a plus le sentiment qu'aujourd'hui, en plus, ils sont premiers au ranking FIFA. On a le sentiment que les Belges ont peut-être une carte à jouer. Ils n'ont pas eu de chance lors de la Coupe du Monde. Ils sont passés devant le rouleau compresseur français.
Ouais, ouais.
Ils se sont fait piéger à leur propre jeu de contre-attaque à l'époque. Mais la Belgique, pourquoi pas la Belgique. Les Hollandais aussi, pareil que les Anglais, c'est encore un peu tendre, j'ai le sentiment.
Marcel, avant de vous libérer, merci de nous avoir répondu.
Ouais, merci.
Quand même ambassadeur UEFA, hein, c'est pas rien quand même.
C'est pas rien, on reçoit pas n'importe qui. Quoi.
Bien sûr. Ah ouais. Alors c'est un euro particulier puisque c'est un peu partout en Europe. C'est l'occasion aussi, alors ça va être difficile pour les gens de voyager librement, etc., même s'il y aura du monde dans les stades, mais c'est l'occasion de parler de voyages aussi, des voyages par rapport au foot. J'imagine que vous, quand vous étiez joueur, vous avez énormément voyagé. Bon, c'est pas dans les mêmes conditions que les touristes normaux. On ne peut pas trop aller voir les villes, mais quand même, le foot vous a permis de découvrir tout un tas de villes.
Mais oui, bien sûr, il ne faut pas hésiter. Vous me tendez la perche et c'est bien de pouvoir parler des voyages et des réservations. Vous me parlez de Booking.com, un des sponsors de l'UEFA. Et c'est vrai que c'est une énergie qu'il faut retrouver pour emmener cette folie que le football a besoin à nouveau. Et que même s'il y a des difficultés pour voyager, il faut arriver à faire l'effort pour à nouveau remettre de la joie dans les stades. Parce que ça nous a manqué hein, quand même, les gars. Ah oui. Les stades, avec le bruit, on était fatigués d'entendre le son des voix des joueurs
du ballon,
sur le terrain.
C'était du ballon, peu, c'est horrible.
Du ballon ou le petit coup sur le tibia et on entendait le joueur crier. Comme
oh là là, heureusement que tu n'as jamais joué à huis clos, parce que sinon on t'aurait entendu en dehors du stade.
Ah, ça aurait été terrible pour moi de jouer à huis clos, puisque j'ai cherché mon énergie, mon intensité. Je n'étais pas un créatif, mais j'allais chercher ma gagne à travers l'adrénaline que le public m'emmenait, quoi.
Et ouais.
Donc, ça aurait été affreux. Donc, oui, on espère que les gens vont se déplacer, vont faire l'effort et qu'on va retrouver le foot au niveau. C'est d'utilité publique, le football, messieurs. Et bien on sûr. En a besoin.
Bien sûr.
Bravo. Bravo, Marcel, voilà. Pour cette page sponsor. Bravo.
Merci Marcel de Sailly.
Merci en tout cas Marcel et puis bon euro.
I love you guys, enjoy.
Allez, salut Marcel, bye.
Marcel de Sailly, le champion du monde 98 et champion d'Europe 2000.
Complètement taré.
Complètement taré. Dans une seconde, le journal moyen.
Non, on l'embrasse.
C'est 18h-20h.
Rotten Régal spécial UEFA Euro 2020.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
18h55, toujours dans Rotten Régal. Allez, c'est l'heure du journal moyen avec Adrien Higouin.
Alors cette semaine, j'ai écouté l'excellente émission Top of the Foot. Oui, capitaine Marqué, ami. Ce que j'appelle dans le jargon du journal moyen un énorme vent radiophonique à Mohamed Bouafsi.
Non.
Je crois que capitaine ne s'est rendu compte de rien. Jean-Louis Tour n'a rien remarqué. Vous êtes en train de parler des performances des anciens lors du match du Variété dimanche à Colombey et les Deux Églises. Et Mohamed tente une petite intervention. Oui, et là, Mohamed est très seul.
Nous avons eu un Laurent Blanc étincelant.
Oui.
Michel Platini.
Non, Michel était blessé.
Non, il paraît qu'il a été étincelant au buffet.
Et puis Christian Carambeu dirigeant la manœuvre.
Mohamed, seul au monde, ça arrive, capitaine, a laissé tomber.
C'est pas beau. Franchement, pas beau.
Je sais pas si c'est volontaire, capitaine, je sais pas. Sans transition, c'est l'euro.
Il t'en met un tour aussi, là.
Heureusement, il y a Kylian Mbappé.
Alors, sur RMC, on est les meilleurs pour le foot. On va se régaler pendant l'Euro. On s'est déjà régalé pendant France-Portugal mardi. C'est la fin de la Marseillaise. Un joueur bulgare s'appelle Touristov.
Et Gilbert me régale. Et voilà pour la Marseillaise. Dans quelques instants, on est de retour. Alors attention au latéral bulgare Igor Touristov. Mmh. On l'a vu prendre des photos.
Il est tout petit.
Le Touristov qui prend des photos.
Je vais demander à pire.
Bah, attends, parce que 12 minutes plus tard, Gilbert.
Il a refait. Il aime bien insister. Bon, et moi je suis le match de Touristov. Hein. On va juste voir s'il est venu là que pour les visites. Voilà. Ou s'il va faire un match.
C'est la deuxième fois que tu l'as fait, tu voulais la placer.
Voilà. Les visites, j'ai pas
encore fait. T'as dit les photos tout à l'heure.
Exactement.
Et puis, du coup.
On n'a pas eu droit au mal au ventre.
Oui, je pensais que c'était ça, que ça tomberait là-dessus.
Je pensais qu'il était.
Du coup, c'est Kevin Diaz qui commente le match avec eux et il veut entrer en jeu avec Gilbert.
Becky pour Benzema.
Et a reçu un petit coup.
J'espère qu'avec ce but de Touristov, ils vont pas prendre une valise quand même.
Oui, avec Griezmann, le corner, il est allé chercher la valise, tête de Kimpembe.
Je vous dis qu'on va se régaler pendant cette Euro.
Ah, là, on va se régaler.
Moi, ce qui m'a régalé, c'est Roland. Je vois que la fixette a commencé dès le match sur la béquille de Benzema.
Béquille. Alors,
attention à la béquille.
Ça, c'est du haut niveau.
Oui, du haut niveau.
J'ai écouté RMC, puis après, je suis allé sur M6. C'est Robert Pires qui a commenté le match.
Du haut niveau aussi.
Avec Xavier Domer.
Très haut niveau.
Alors, vous allez m'aider, capitaine et Jérôme, parce que sur l'intégration de Benzema dans l'équipe, il y a une histoire de pied. C'est pas dans le bon ordre, je pense.
Cette formation qui est la nôtre, et puis surtout avec les joueurs qui est autour de lui, donc il est dans le cœur du jeu. Je trouve qu'il ne se marche pas trop les pieds avec Antoine Griezmann, donc c'est vraiment intéressant.
Il ne se marche pas trop les pieds. Tu te marches toi les pieds, d'accord.
Il est hyper sympa, Robert.
Dans le match, il y a eu quand même pire. Hein. Dans le match.
Sur quoi? Sur l'analyse tactique.
Notamment.
Bon, arrêtez, on critique pas les confrères. En plus, ils sont très sympas. Donc maintenant, ça suffit. Voilà.
Il marquerait plus qu'il borde.
Non, mais c'est vrai. Et Jean-Michel, on peut confondre un 4-4-2 en losange et un 4-3-3 avec trois attaquants sur la largeur. Ça peut arriver. Hein.
Jean-Louis, vous dites d'arrêter. Il est mort de rire.
Mais Jean-Louis, non, mais qu'est-ce que tu veux. Après, c'est l'émission de Jérôme. S'il veut se passer avec tout le monde, il peut rien, moi.
J'étais en recyclage quand ils ont fait l'analyse tactique. D'accord. J'étais en recyclage. Oui, là, c'était magnifique.
Merci, dit, Adrien.
Faut que je reparte à Clairefontaine pour.
Mais ce qui est bien, c'est de faire l'analyse au bout d'une heure de jeu. Ça, c'est bien.
dans un instant. Analyse du séisme autour des droits télé. Canal se retire. Quelle réaction pour la Ligue? On en débat dans un instant et on vous rappelle toutes les infos et puis on lance l'Euro. Qui est le principal concurrent des Bleus? On fera un tour d'Europe dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Roten Régal, spécial UEFA Euro 2020. RMC
18h-20h.
Roten Régal, spécial UEFA Euro 2020.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h04 sur RMC. Vous êtes de retour dans Roten Régal, bien sûr, pour cette deuxième heure avec Jean-Louis Tour, Jean-Michel Larquet, bien sûr. On a Jean-Louis, beaucoup d'actualités avec. Les droits télé, on va en parler encore.
Exactement, gros programme dans cette deuxième heure. Alors on est à 2h du début de l'Euro. Ah, je te sens pas excité Jérôme, c'est l'Euro quand même. On l'attend depuis un an là, moment.
Ça me rappelle l'Euro 2004.
Ah bon?
Ah, j'étais excité mais incroyable.
Après,
j'étais
à fond. La compète a pas été si dingue hein, l'Euro 2004.
On, ah, Zizou, on voulait pas que je joue souvenir. Donc c'était compliqué après.
Ah, c'est pour ça. Ouais. D'accord. Alors l'Euro, ça commence à 21h avec Turquie, Italie. On présentera cette rencontre tout à l'heure avec Jeannot Rességui à Rome. On va retrouver notre spécialiste du foot européen, Paulo Breitner, Fred Hermel, Johan Crochet, Julien Laurence, qui est le principal concurrent des Bleus. Ils nous parleront de toute leur sélection. Et puis 32-16, inscrivez-vous pour le quiz de Roten Régal autour de l'Euro. Ce sera tout à l'heure à 19h45. On vous offre vos vacances également. Une semaine dans un club Bellambra. Pour être tiré au sort, vous envoyez vacances par SMS au 732-16. Vacances par SMS au 732-16. Tout de suite, la crise des droits télé en France n'est pas terminée. On pensait que ce serait la journée décisive. On pensait que ce soir, tout serait terminé, tout serait bouclé, que les droits reviendraient surtout à Canal, un peu à Bein. Mais non, finalement, on est toujours dans une impasse. Arthur Perrault est de retour avec nous.
Rebonsoir, messieurs.
Rappelle-nous déjà ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui s'est passé à la Ligue et tout ce qui a abouti au retrait de Canal.
Tu l'as dit, Jean-Louis, ce fait marquant juste avant 18h. L'annonce vient communiquer de Canal+, intitulée « La chaîne cryptée se retire de la Ligue 1 » et contactée il y a quelques instants par RMC Sport. Une source Canal+, précise que Canal avait prévenu la LFP que s'il n'avait pas tout, c'est-à-dire tous les matchs, toutes les rencontres,
tous les lots,
il se retirait. Canal juge...
Du moins les choix 1 et 3.
Exactement.
Que voulait Canal depuis le début. Ouais, et laisser les 8 autres matchs par journée.
Voilà,
à Bein Sport.
Mais Canal juge que la LFP a fait la même erreur qu'en 2018, que
Tu vas nous redonner la version de Canal. Rappelons juste ce qui s'est passé, les faits quand même. Ouais. C'est-à-dire que la Ligue a décidé donc de laisser les droits à un trio Canal, Amazon, Bein Sport,
oui.
Et que dans cet accord, Canal n'avait plus les premiers choix. Canal avait les lots 1 et 3, mais seulement sur 28 des 38 journées, lot 1. Ça veut dire que les 10 meilleures affiches étaient sur Amazon et pas sur Canal. Et c'est ça qui ne leur a pas plu.
Pour un total de 663 millions d'euros, tu l'as dit, le samedi 17h et dimanche 21h sur la chaîne cryptée, Amazon, qui récupérait les 8 autres rencontres avec ses 10 affiches, en plus, 8 matchs de Ligue 2, les deux chocs de la deuxième division devaient revenir à Bein Sport. Et pourtant, oui, tout avait bien démarré ce matin avec la décision de l'autorité de la concurrence saisie par Canal pour abus de position dominante de la part de la LFP. Cette plainte a finalement été rejetée pour manque d'éléments suffisamment probants. C'est l'arrêt de cette série judiciaire qui a tout changé et permettant donc ce fameux accord qui n'a pas tenu longtemps. Parce que dans la foulée, il y a quand même eu un communiqué de la Ligue se félicitant de cette annonce avec Vincent Labrune qui a précisé que l'arrivée de ce nouvel acteur aux côtés de notre partenaire historique Canal+, je le cite, est quand même porteuse d'avenir pour le développement du futur du football professionnel. Finalement, ce n'est pas du tout de l'avis de Canal+, qui a annoncé donc se retirer. Canal+ ne diffusera pas la Ligue 1. Et je vous le disais, donc Canal qui juge que cette Ligue de football professionnel a fait la même erreur finalement qu'en 2018, le dernier appel d'offres, que ce n'est pas du bluff cette démarche, et que Canal peut très bien se passer de la Ligue 1. Dernière réaction il y a quelques instants, elle était attendue, celle de Amazon Prime Video, qui précise que c'est un accord historique qui fait de Prime Video un partenaire majeur du football professionnel en France.
On va essayer d'aller plus loin avec notre invité. Pierre Maes est avec nous, spécialiste des droits télé. Bonsoir Pierre.
Salut Pierre.
Bonsoir à tous.
Sacré coup de tonnerre, hein.
Ah bah là, c'est violent. Alors, comme d'habitude.
Déjà, Pierre, est-ce que vous considérez, comme on le dit à Canal, que les présidents de club ont refait la même erreur qu'à l'époque de Mediapro, en allant au plus offrant et en tournant le dos à Canal, partenaire historique?
Non. L'erreur, si erreur il y a, n'est pas du tout la même. Ce qui a été finalement reproché dans le choix de Mediapro, c'est finalement de traiter avec un partenaire qui s'est révélé insolvable ou en tout cas sans volonté de payer. Ici, Amazon, ils ont des centaines de milliards de chiffres d'affaires.
je pense pas qu'on doit craindre que Amazon ne paye pas ses factures.
Non, alors c'est peut-être pas là-dessus. C'est plus le côté donner les 10 meilleurs matchs de Ligue 1 à Amazon et pas à Canal, alors que ça a fait vexer Canal. Canal s'est vexé à cause de ça.
Mais non, c'est évident. Et on a l'impression. En fait, ce qu'on pensait, c'est que depuis l'échec Mediapro et la catastrophe Mediapro, on pensait que la Ligue et Canal étaient en train de rebâtir une relation constructive. D'ailleurs, ils s'en sont vantés, si pas harmonieuse, et en tout cas pour construire un futur ensemble. On voit aujourd'hui que c'est pas du tout le cas, et que pour moi, la décision de la LFP, c'est ni plus ni moins qu'une déclaration de guerre à Canal.
Ah oui. Tout à fait. Ouais. Donc toi, tu pars sur la déclaration de guerre, sachant quand même que il pouvait y avoir un concurrent que Maxime Saadal l'a expliqué. Donc il s'y attendait aussi. Hein. Il disait que c'était possible qu'il y ait un autre diffuseur qui se présente et qui fasse une offre. Donc toi, tu penses que il y a eu un coup dans le dos fait de la Ligue par rapport à Canal.
Ce qu'on sent, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu d'amélioration dans la relation. Oui, c'est clair qu'après la catastrophe Mediapro, Canal Plus s'est retrouvé en position de force, l'a montré, l'a fait savoir, ça n'a sans doute pas plu à la Ligue, qui aujourd'hui dit, ben non, c'est nous le patron, on a l'impression de voir deux coqs. Alors, je ne suis pas sûr que, tu vois, la décision de la Ligue de prendre Amazon pour quelques dizaines de millions en plus, soit la plus intelligente. Enfin, oui. Ça fait longtemps qu'on sait que Canal Plus veut récupérer les 10 premières affiches du dimanche.
Bien sûr, c'est leur priorité.
Est-ce qu'on connaît le montant?
C'est pour ça que je ne comprends pas.
Est-ce qu'on
pas,
connaît
moi,
le montant de l'offre Canal Bein? Parce que ça, on le connaît pas, le montant. Alors, sur l'ensemble des lots, Jean-Louis.
C'était assez proche. Hein. Attends,
parce qu'en effet, moi, je suis d'accord avec toi, Pierre. C'est en effet, ça se joue à 10, 20, 30, 40
non,
millions.
Ça se joue presque rien. En fait, si tu veux, l'offre Canal Bein, c'était 595.
Ah ben quand même,
plus 78 de variables, ok. D'accord. Et l'offre avec Amazon, c'était 663.
Et le variable,
sans variable.
Ah oui, donc
voilà. Donc on est à quelques dizaines de millions d'euros.
Ouais,
alors le risque le plus grand qui est couru et que Canal vient de réaliser, on va dire, c'est qu'effectivement il y a un risque maintenant qui pèse sur le lot à 332 millions d'euros que Canal Plus. Et je les comprends tellement. Canal Plus n'a pas envie de payer 330 millions pour un lot qualitativement est moins bon que celui mais d'Amazon, oui, qui ne paye que 250 millions. Ouais,
enfin, Pierre, je ne sais pas si vous allez avoir des éléments à nous apporter, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Canal annonce, on se retire. Est-ce qu'ils doivent tout de même verser l'argent qu'ils se sont engagés à payer? Est-ce que leurs droits pourraient retomber sur beIN Sport, puisque à la base quand même c'est beIN qui avait acquis certains droits que Canal avait sous-licenciés? Qu'est-ce qui peut se passer concrètement maintenant?
Je ne sais pas. On peut imaginer que Canal Plus ne peut pas se retirer comme ça d'une relation contractuelle qu'elle a effectivement avec beIN. Et beIN a une relation contractuelle avec la Ligue, donc ça doit maintenant, va devenir de nouveau très juridique et sans doute aussi très judiciaire. Hein. On va, Canal Plus va explorer toutes les voies possibles pour annuler ce contrat. Voilà, mais moi je m'en tiens un petit peu au raisonnement de base que je viens d'expliquer. Il y a clairement, alors que la justice soit d'accord ou non, mais il y a clairement un traitement inégal qui fait que, si tu veux, Canal paye des droits au tarif de 2018. Alors que Amazon les paye au tarif de 2021. Et le tarif de 2021 par rapport au tarif de 2018, c'est divisé par 3. Je m'explique. Mediapro payait pour tous les droits d'Amazon 780 millions et Amazon paye 250 divisé par 3.
Merci Pierre Maes.
Merci Pierre en tout cas pour ton éclairage.
Avec plaisir.
Consultant dans
avec
le domaine des droits télé. Captain, tu veux dire rajouter un mot sur ce que tu as entendu?
Non, simplement, c'est regrettable quand même que pour quelques dizaines de millions, je n'arrive pas à tout comprendre, parce que je crois que sur l'offre Canal Bein, il y avait des bonus qui étaient en jeu, non, me semble-t-il. Hein,
ouais, c'est ça.
Ça
fait partie des variables.
78 millions par variable.
Après, qu'est-ce que c'est, les bonus? C'est par rapport à quoi,
ça? Je ne sais pas. Non, c'est pas le nombre de matchs. Demain,
le nombre de buts inscrits.
Non, on ne sait pas. Ou les audiences, j'en sais rien. Mais bon, c'est le poker menteur continue, parce que n'oublions pas quand même que Canal a pris son véritable essor avec le football. Canal a souffert un petit peu, même beaucoup, de désabonnements sans le football français. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les audiences télé du foot sont à revoir très nettement à la baisse. Donc, il faut que tout le monde se rende compte que ce produit n'est plus celui qu'il était.
Exactement. Le tennis, la deuxième demi-finale à Roland-Garros, Djokovic, Nadal, on va se régaler. Eric Salio et Florent Serra. Salut Eric.
Salut Jean-Louis. Effectivement, on va connaître l'adversaire de Stefanos Tsitsipas dimanche en finale de Roland. Stefanos Tsitsipas qui s'est imposé en 5-7. Et la demi-finale a débuté. La demi-finale à Dream, demi-final, a débuté depuis 5 minutes dans une ambiance assez étrange, puisque des sifflets, des colibés ont salué l'entrée sur le court de Novak Djokovic. Donc on a compris, Flo, qui jouerait pas à la maison, le Serbe. On est un peu dans la propriété privée de Rafael Nadal, mais ça on le savait, mais peut-être pas à ce point-là, Flo.
Ouais, ça s'entend bien. Bon, après il a eu quelques applaudissements quand même, mais c'est sûr que les gens le chouchou, le central, c'est Rafa. Et puis vous inquiétez pas, s'il arrive à sortir un match de dingue, Novak Djokovic, et qu'il bat Rafael Nadal demain, le chouchou, je pense que ça sera Stefanos Tsitsipas, qui est déjà adoré du public aussi après sa petite interview, même avant. Donc là on se concentre déjà sur ce premier jeu parce qu'il y a déjà beaucoup d'intensité. Si Djokovic arrive à reproduire les deux premiers sets contre Berrettini, je pense qu'il a une chance. S'il a les petits trous d'air qu'il a eu ensuite dans le troisième et quatrième, Rafa parviendra à s'engouffrer.
Jean-Louis, on a une crainte.
Oui, eh oui, il a fait un match
2h45 et couvre-feu. Et on connaît les deux loustiques.
Et surtout, s'ils mettent 10 minutes par jeu, effectivement, ça peut être très long.
Ouais. Donc là, les spectateurs, ils commencent à regarder leur montre parce que.
On a le temps. Ne crie pas avant d'avoir mal. Voilà, profite. Et puis on verra plus tard.
3h45. Voilà. Normalement, ça devrait aller.
Merci, messieurs. Eric Salio, Florent Serra.
52 au final à Melbourne.
Ah, d'accord. OK. Ah, ouais, d'accord. Allez, à tout de suite pour peut-être la fin du premier jeu. Dans une seconde, multiplex spécial Euro. On va parler de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie, de l'Angleterre. Qui est le principal concurrent des Bleus? 32-16, à tout de suite.
RMC, 18h-20h, Rotten Régal spécial UEFA Euro 2020. Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
19h18, toujours sur RMC, bien sûr, dans Rotten Régal. Allez, vous entendez la musique de l'Euro, on est avec Jean-Louis Tour, Jean-Michel Larquet. On va rentrer dans la compétition bientôt, on a hâte.
Exactement, 21h, le premier match entre la Turquie et l'Italie, match en intégralité sur RMC. Cérémonie d'ouverture juste avant, évidemment, vous ne raterez rien de cette compétition. Et on va d'ailleurs présenter le plateau, quelques équipes du plateau, parce qu'on se demande qui est le principal concurrent des Bleus. Polo Breitner est avec nous pour parler de l'Allemagne. Salut Polo.
Bonsoir Jean-Louis, bonsoir Jérôme, bonsoir Jean-Michel, bonsoir tout le monde. Bonsoir.
L'Espagne avec Fred Hermel. Salut Fred.
Hola chicos.
L'Italie avec Johan Crochet. Salut Johan.
Bonjour à tous.
Et l'Angleterre avec Julien Laurence. Salut Julien.
Salut les gars.
Bon, vous avez vu, c'est la pagaille avec nos droits télé. Hein. On va pas parler de ça ce soir, mais voilà.
On va pas remettre une petite
pièce. Pour une fois, c'est pas la faute des Catalans.
C'est pas la faute de Média.
Là, t'es pas responsable, t'as rien dit, Fred.
Là, j'ai rien dit. Hein. Ouais. Hop, moi, Amazon, en plus.
T'aimes bien Amazon?
T'as pas d'avis?
Ah oui, c'est intéressant, ça.
Pourquoi Polo?
Les gens qui passent leur temps à dire qu'il faut consommer local, est-ce qu'ils vont s'abonner à Amazon?
Oui.
Après, il y a un truc, ça marche très bien. Ils ont peut-être envie d'un truc qui marche.
Ouais, c'est possible. Oui, c'est vrai, bon, bref, on y va, messieurs. On va parler de vos sélections. On va commencer par l'Allemagne, Jérôme. Et en Allemagne,
oui, c'est nos concurrents.
Hein. C'est notre premier adversaire, effectivement. Ouais. La question, le débat qui agite l'Allemagne. Nous, c'est Giroud, Mbappé, est-ce qu'ils s'aiment bien. Eux, c'est comment jouer au milieu, Polo.
Ah oui, alors c'est intéressant parce que les sulfateuses ont commencé à sortir, évidemment. Les vieux lions, Bertie Fuchs, Lothar Matthäus, ont mis évidemment le doigt là où ça fait mal. Et là où ça fait mal dans l'équipe d'Allemagne, c'est ce milieu de terrain, Toni Kroos et Gundogan, théorique pour la rencontre contre la France, avec, et notamment à Bertie Fuchs, donc l'ancien sélectionneur victorieux de l'Euro 96 notamment, qui dit, mais on va se faire démonter avec le milieu de terrain de l'équipe de France. Ces joueurs-là sont beaucoup trop offensifs, se projettent beaucoup trop rapidement vers l'avant, donc il faut absolument remettre Kimmich. Et évidemment, du côté du sélectionneur, on répond, on dit, moi je vis avec cette pression depuis que j'ai pris les rênes de la sélection en 2006. Mais tu te rends compte qu'aujourd'hui, il y a une effusion de d'articles là-dessus en se disant mais qu'est-ce qui va se passer, il faut pas que Yogi Löw se trompe. C'est vrai que Toni Kroos avec ses plus de 100 sélections, bah quand même c'est peut-être pas la sécurité sociale en ce moment contre cette équipe de France, le milieu de terrain, et notamment qu'il a pas été bon, il a été le moins bon des Allemands contre la Lettonie. Donc si tu veux, le cas Kimmich pose question, puisqu'évidemment il y a un phénomène de ricochet, et tout ça, bah si tu veux, ça embrase un petit peu l'Allemagne en ce moment. Je pense qu'on est vraiment rentré dans l'euro, les articles évidemment assez cinglants contre la sélection, des articles de très très haute qualité pour expliquer que le plus dur finalement pour cet euro, c'est pas de gagner l'euro, mais c'est peut-être tout simplement de sortir de ce groupe, et qu'après on verra ce qui va se passer. Mais en tout cas, je pense que c'est parti d'un très bon pied.
Ouais, ouais, bon, de toute façon, il y a de l'excitation aussi du côté allemand, où on attend forcément une réaction. Après, pour l'autre, on a déjà parlé souvent, et là, je te rejoins totalement. C'est que une compétition ratée, du moins quand il y a des incertitudes en Allemagne, ça ne veut pas dire que la compétition va être catastrophique. En général, ça fait quart de finaliste, demi-finaliste. Quand c'est moyen et quand c'est très bon, ça va au bout. Donc, moi, je m'attends à voir l'équipe d'Allemagne à son meilleur niveau. On l'a vu, ils se sont, même si c'était un adversaire de piètre qualité le dernier match, ils ont quand même mis 7 buts, ça donne de la confiance aux attaquants. C'est important de voir des joueurs exceller comme ça. Et puis il y a eu aussi, pour la plupart, les Allemands qui ont gagné la Ligue des Champions avec Chelsea, ça donne aussi de la confiance qu'ils n'avaient pas forcément avec leur sélection, et peut-être que là ça va leur donner du crédit.
Captain, tu les mets très haut là parmi nos principaux concurrents?
Ouais, parce que c'est toujours l'Allemagne, parce que on a vu que c'était quand même une équipe qui savait pour les grandes occasions se sublimer, mais il est évident qu'elle n'a plus les atouts, ou qu'elle n'a pas pour l'instant les atouts qu'elle avait auparavant. La génération, les prodiges n'arrivent pas à arriver. On les attend, hein, ils sont un espoir, ils ont gagné l'Euro espoir, les Allemands. Mmh. Mais c'est vrai que quand on voit encore Hummels, quand on voit encore Toni Kroos, on se dit véritablement que le réservoir n'est pas aussi riche qu'il l'a été.
Là où il y a un réservoir riche, oui. Quelqu'un voulait ajouter un truc, non? Là où il y a un réservoir riche, c'est en Angleterre, et offensivement. Et en plus, c'est un euro à domicile, Julien. Quasiment.
Effectivement, parce qu'ils devraient jouer tous leurs matchs à domicile, même ça pourrait être l'équipe de France en 8e de finale à Wembley, mais c'est vrai que en Angleterre, en tout cas, on croit beaucoup à cet effet domicile, à avoir un petit peu de supporters dans les stades. On sait qu'en général, ça a réussi plutôt bien à ceux qui organisent les Coupes du Monde ou les Euros. On est bien placé pour le savoir, nous aussi, en France, même si en 2016, il a manqué un rien. Mais donc, c'est vrai que ça fait déjà... Ça fait partie de l'optimisme anglais. Et puis c'est vrai, il y a cette armada offensive assez incroyable, peut-être la meilleure qu'ils aient jamais eue dans leur histoire, même peut-être meilleure que celle des années 60. Je pense qu'il n'y a que l'équipe de France peut-être qui pourrait rivaliser avec l'armada offensive anglaise, peut-être les Portugais aussi. Mais c'est vrai que quand tu regardes un Harry Kane, un Rashford, un Sterling, un Sancho, Mount, Grealish, Foden aussi, tout ça, il y a un tel niveau, un tel potentiel offensif. C'est vrai qu'encore une fois, si Southgate trouve la bonne formule, met les bonnes pièces du puzzle dans le bon ordre, dans le bon sens, ça peut faire très mal offensivement.
Il est peut-être là le problème, Julien.
Ils ont des lacunes.
Il est peut-être là le problème du sélectionneur.
Exactement. Et oui, tu sais à quel point je ne le porte pas dans mon cœur.
Ouais.
Mais là, il a vraiment des diamants avec lui. Ce serait dommage qu'il les transforme en poussière, quoi.
Ouais. Bah bien sûr, ouais.
Ça c'est sûr. Ouais, non, mais c'est vrai que l'incertitude, elle est là. Du côté, bien sûr que la qualité individuelle des Anglais, du moins d'un point de vue au milieu de terrain, offensivement, les attaquants, c'est vraiment du très très lourd par rapport à il y a quelques générations. Et ils sont en pleine progression en plus. Ils n'ont pas atteint leurs limites. Mais quid du sélectionneur? Parce que je pense qu'il faut aussi, c'est pas je pense, c'est que j'en ai la certitude, il faut un vrai chef de bord. Et on n'a pas l'impression que Southgate, ça soit cet homme-là.
Et surtout que là, il y a besoin de faire des choix. Parce que effectivement, il y a un énorme potentiel, mais il faut faire des choix et c'est pas facile.
Ouais, et puis il faut les accompagner, ouais. Jean-Louis. C'est ce que a très bien fait Didier Deschamps au bout d'un moment. Alors, même si maintenant il y a plus d'expérience du côté des Bleus, bien sûr. Mais c'est bien aussi d'avoir des repères et de les mettre dans un certain système. Et puis surtout qu'ils progressent. Et à chacune des sorties, normalement, l'expérience, le fait d'échanger avec ton staff et ton sélectionneur te donne cette envie-là de progresser, et puis tu le ressens sur le terrain. Et c'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde en sélection anglaise.
Captain, tu veux ajouter un mot sur les Anglais ?
Non, simplement, si nous, on a les meilleurs attaquants du monde, les Anglais sont pas mal de ce côté-là.
Ouais.
Je pense que quand tu présentes une équipe avec une ligne d'attaque avec Mount, Rashford, Foden et Kane, tu peux marquer des buts quand même. Hein, c'est quand même des garçons. Et puis, je le répète encore une fois, l'Angleterre peut jouer 6 matchs de 7 euros à domicile avec des jauges qui doivent être intéressantes, je crois, du côté de l'Angleterre. À un moment donné, c'est aussi un petit avantage. Hein. On ne peut pas les écarter.
Comme en 96.
Eh oui, exactement, Polo. Alors, dans un instant. Dans un instant, l'Espagne et l'Italie. On va présenter également Italie-Turquie. Juste avant, balle de break à Roland, Nadal Djokovic, Eric Salio, Florent Serra.
Oui, un jeu à zéro pour Rafael Nadal et avantage pour l'Espagnol sur le service de Djokovic. Un smash de Djokovic, il va en falloir un deuxième, peut-être même un troisième. Attention, le passing de Nadal, il va y être Nadal.
Boum
et c'est le break pour l'Espagnol.
Incroyable.
Extraordinaire.
Je disais sur le smash parce qu'en fait, le jeu d'avant avec Eric, on était étonnés parce que Djokovic a manqué un smash.
Qu'est-ce que c'est, ce match qu'il a fait,
il est parti dans la bâche presque. Et donc, déjà un break pour Rafael Nadal.
Ce match au milieu du court, là, sans puissance.
On a l'impression de revoir Florent Serra à l'époque à Roland-Garros.
Oh, merci Jérôme.
Ça me fait plaisir. Il attendait depuis tout à l'heure pour la place. Merci fort, messieurs. Eric Salio, Florent Serra. Dans une seconde, on continue de présenter les adversaires potentiels des Bleus à l'Euro, qui sont les principaux concurrents de l'équipe de France. 32-16, à tout de suite.
MC 18h-20h Rotten Régal spécial UEFA Euro 2020.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
19h30 toujours dans Rotten Régal sur RMC avec Jean-Louis Tour, Jean-Michel Larquet. On finit encore une demi-heure pour rentrer dans cette compétition avec nos correspondants qui sont là.
Exactement, nos spécialistes du foot. Italien, espagnol, anglais, allemand, Johan Crochet, Paulo Breitner, Fred Hermel, Julien Laurent sont toujours avec nous dans 1h30. Premier match de 7 euros, Turquie-Italie. On va présenter la rencontre en détail. Et puis, on espère que la France se passionne pour 7 euros et que tout le monde soit à bloc pour suivre ces matchs. Léna Marjac est avec nous dans un restaurant italien à Paris. Salut Léna.
Salut Léna.
Bonsoir tout le monde. Alors, et oui, ça y est, je suis dans un restaurant italien avec Carmelina, d'origine italienne. Alors forcément, ici, tout est prêt. La télé est déjà allumée, les tables sont dressées. Il ne manque plus que les supporters qui vont arriver.
Ils vont arriver, sans doute.
Et je suppose que pour vous, c'est une grande soirée. C'est une grande soirée,
c'est magnifique. Nous, on adore le foot, on adore quand ils jouent l'Italie. Et on est à fond la caisse pour l'Italie.
Vous me disiez tout à l'heure, vous êtes comme des fous. Et juste avant ce direct, vous étiez déjà en train de vous entraîner, d'entraîner vos cordes vocales.
Oui. Fratelli d'Italia, d'Italia, c'est d'esta.
Viva l'Italia. Voilà, vous venez d'entendre ici la soirée, l'ambiance va monter. Encore 1h30 avant d'attendre. Mais en tout cas, Carmelina et puis les clients qui vont prochainement arriver sont prêts pour cette première soirée, ce premier match de l'Italie.
Merci Léna Marjac.
Merci Léna. Maintenant, on va en quart. Hein. Faut qu'elle fasse son cara maintenant.
Oui, bien sûr, cara, pour la Turquie, pour équilibrer les choses. Italie-Turquie, on va parler de ce match en détail avec Jeannot Resegui à Rome et Johan Crochet, bien sûr. Juste avant, on finit notre tour d'Europe. En Espagne, Fred, tu me disais, il n'y a aucun enthousiasme pour l'Espagne, pour la sélection.
Bah, il suffit de regarder les sites internet d'AS et Marca, là, ils sont tous sur Nadal, quoi. Et puis après, ils te parlent du Real, des projets d'Ancelotti, etc. Il faut aller tout en bas pour trouver des informations sur la sélection espagnole. Bon, pour deux raisons. Déjà, parce que naturellement, les Espagnols, on sait que c'est un football de club et qu'il faut, en général, que l'Espagne passe quelques tours avant qu'il y ait un véritable enthousiasme. En plus, on sait très bien que cette équipe, elle ne va pas gagner. Elle n'est pas du tout favorite. Loin de là. C'est un projet à long terme qui est en train de construire Luis Enrique. Et puis il y a toutes ces histoires des derniers jours. Alors simplement, on va donner les dernières informations. Diego Llorente vient d'avoir un troisième contrôle négatif de suite. Donc son positif aurait été un faux négatif. Donc finalement, il reste que Busquets. Et Busquets, a priori, le sélectionneur Luis Enrique va attendre qu'il soit de nouveau négatif, puisqu'il est pas, il n'a pas de symptômes, il est asymptomatique. Il va l'attendre pas pour le premier match contre la Suède, mais il espère qu'il soit là quelques jours plus tard contre la Pologne. Bref, on va revenir au 24.
Si c'était un joueur du Real, il serait déjà chez lui.
Ah bah oui, bah oui, bah non, il peut pas. Non,
puis là, tu touches
le truc, c'est que à partir du moment où sur les 40 quand t'es un joueur, les réservistes avec toutes ces histoires de Covid, etc., qui ont été convoqués par Luis Enrique, il y a zéro joueur du Real qui représente en gros 60% des amateurs de foot en Espagne, les supporters du Real. Donc il y a un désintérêt déjà national parce que cette équipe va pas gagner et que en plus là Luis Enrique s'est mis à dos beaucoup
non, mais
de gens.
C'est ça qui est incompréhensible, c'est Fred, fou, quoi, quand c'est... même. Non mais c'est les gens disent quoi sur les choix de du sélectionneur quand même, parce que
c'est du ressentiment contre le Real Madrid puisque il est très très mal parti.
Mais on lui a club, bien posé tout. La question hein, en conférence de presse, il et répond quoi à ça?
Il répond toujours sur les questions sportives, bien entendu. Ça me rappelle un certain sélectionneur français quand il parlait d'un joueur du Real il y a longtemps. Je sais pas, ça te dit quelque chose?
Oui, non. Non, vois, là, c'est même pas sur une tête d'affiche ou sur un joueur, c'est sur plusieurs joueurs, parce qu'il y en avait, plusieurs au Real qui auraient pu être sélectionnés. C'est ça qui est incompréhensible. C'est vraiment qu'il a une dent contre le Real Madrid. Mais,
ah, bah oui, c'est clair, quoi. Mais c'est pas bon parce que ça n'entraîne pas les supporters derrière cette sélection.
Oui, bien sûr. Bah, de toute façon.
Et l'autre jour, dans Top of the Foot, je disais justement qu'il y avait de nombreux supporters du Real Madrid qui allaient soutenir la France à cause de la
sélection qui, en plus, est plus faible que sur les années précédentes.
Non, mais qu'elle soit plus faible, Fred nous l'expliquait. Peut-être qu'en effet, elle arrivera à maturité dans un an et demi, dans deux ans, pour le mondial au Qatar. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu t'appelles l'Espagne, comme quand tu t'appelles l'Allemagne, l'Italie, et l'Italie a connu une génération qui était moins bonne que celle-là. On en reparlera avec Johan tout à l'heure. Mais quand, ces pays-là, c'est des pays de football. Alors d'un moment, ta sélection est aussi très importante. Et là, on sent vraiment un désamour. Et c'est ça qui est incroyable.
Après, en Espagne, c'est moins important que l'Italie en général. Hein, quand même.
C'est presque une honte. Parce qu'auparavant, le papa de cette sélection, Del Bosque, n'a jamais hésité à prendre et à sélectionner, non pas un, non pas deux, mais plusieurs joueurs
et à même faire la paix entre eux. Entre les Barcelonais et les Madrilènes.
Comment peut-on accepter à la fédération qu'il y ait autant de partis pris et qu'il y ait un tel boycott?
Bah, ils sont anti-réal aussi à la Fédé, donc c'est parfait.
Comment?
Oui, ils sont anti-réal aussi à la Fédé, donc.
À un moment ou un autre, ils vont payer les pots cassés, mais c'est quand même ignoble. C'est une honte par rapport non pas au Real Madrid, par rapport au football tout simplement.
On va remercier Paulo Breitner, Fred Hermel, Julien Laurence, merci à tous les trois. Johan Crochet toujours avec nous. Jeannot Rességuier nous rejoint en direct de Rome. Rebonsoir Jeannot. Il est où Jeannot? Jeannot Rességuier, il va arriver dans un instant. Alors l'Italie.
Je suis là.
Il est là Jeannot.
Ça nous a fait peur.
Non, j'étais en train de regarder le bus des Italiens qui vient juste d'arriver au stade.
C'est sûr que c'est intéressant ça.
Ah bah oui, parce que je sais que j'ai suivi le parcours et c'est très typique italien, parce que même avec une escorte et deux motards, c'était incroyable. Ah ouais, le bus des Italiens a failli taper deux fois une voiture au départ de l'hôtel. C'était assez surréaliste, mais bon, il y avait du monde au départ de l'hôtel, un petit peu d'ambiance. Il y a eu du monde sur la fin du parcours avec notamment l'allée olympique. Pardon ?
Mais à quel hôtel ils étaient, Jeannot ?
Je sais pas, là je te montre pas, peu importe. En tout cas, il y avait du monde au départ du bus et les joueurs viennent donc d'arriver à l'instant même, alors que les Turcs sont arrivés il y a à peu près une petite dizaine de minutes et le public commence à s'installer dans le stade olympique.
Alors, on n'a pas les compos officiels. En tout cas, Johan, ce qui est sûr quasiment, c'est que donc il y aura cette charnière de grande expérience, Chiellini Bonucci, pour encadrer les jeunes. Parce que c'est quand même une sélection jeune, hein, l'Italie.
Alors c'est une sélection jeune dans l'âge et puis même il y a des trentenaires qui n'ont pas une expérience très importante du plus haut niveau, tout simplement des joueurs comme Florenzi, Insigne, Immobile par exemple, c'est 15 matchs de Ligue des Champions. Ouais. Donc on ne peut pas parler d'un joueur, même s'il a 31 ans, on ne peut pas parler d'un joueur extrêmement expérimenté non plus. Donc c'est vrai qu'on va beaucoup s'appuyer sur cette charnière Chiellini Bonucci, 37 ans en août pour Giorgio Chiellini. Il est en sélection depuis novembre 2004, ça fait 17 ans, donc c'est plutôt pas mal. Et Bonucci, 34 ans, 209 sélections à eux deux, messieurs, donc ça pèse quand même aussi. Ils étaient ensemble à la Juve, ils le sont toujours d'ailleurs, ensemble en sélection. C'était d'abord un trio avec Barzagli, souvenez-vous, soit dans une défense à 3, soit c'était Chiellini qui était du coup sur le côté gauche. C'est des joueurs très importants. Alors, Bonucci, c'est pas forcément sur le niveau de défenseur pur, parce que il y a beaucoup à dire sur les performances de Bonucci en défense. Dans le 1 contre 1, il a beaucoup de mal. C'est pas quelqu'un qui a beaucoup de réflexes de défenseur pur, entre guillemets, mais c'est quelqu'un qui complète très bien Chiellini, parce que Chiellini a cette agressivité, cette ce sens du marquage, du placement, de l'anticipation. Louis Bonucci, il est un peu plus dans la relance, dans l'utilisation du ballon. Donc, c'est deux joueurs qui se complètent très bien, qui se connaissent très bien aussi, qui sont très expérimentés et qui ont aussi ce caractère. Parce qu'on a des joueurs italiens qui, prenez les deux qui seront titulaires normalement ce soir, Locatelli et Berardi. Ils jouent à Sassuolo, ils connaissent pas la Coupe d'Europe, où Berardi avait joué l'Europa League il y a quelques années. Mm. Mais c'est pas des joueurs qui ont l'habitude de ces matchs à haute pression, parce que mine de rien,
ils en jouent des matchs à haute pression avec leur club.
Ils en jouent en championnat, mais c'est quand même pas la même chose. Là, tu débutes l'Euro.
Ouais, après, il faut bien débuter, c'est toujours pareil. Le tout, c'est, et tu l'as dit, c'est d'être bien encadré aussi. Il y a des joueurs d'expérience, tu viens de les citer. Mais moi, le doute que j'ai, et tu vas me donner peut-être une réponse là-dessus, c'est l'état de forme de ces joueurs-là, parce que j'ai l'impression que c'est des joueurs qui sont un petit peu sur le déclin, du moins sur le déclin entre guillemets.
Et ils sont sur le déclin, mais il faut se l'avouer, Chiellini n'était pas certain de renouveler son contrat à la Juve, et c'est l'arrivée d'Allegri qui fait qu'il devrait prolonger un an. Chiellini, qui va avoir 37 ans, j'ai dit tout à l'heure, c'est pas tant son niveau individuel, lui c'est simplement des blessures, c'est que plus ça va et plus il se blesse, plus il a du mal à revenir, et donc plus son temps d'absence augmente, et donc plus il devient... moins il devient important pour ses équipes, à la fois pour la Juve et pour la sélection nationale, parce que quand tu rates 8 mois sur 12, effectivement ton importance
est relative. Le problème il est là, et alors on est d'accord ou pas, mais Fred et Hermel nous en parlent avec Ramos par exemple, hein, beaucoup de blessures et le sélectionneur a préféré s'en passer. Là c'est la même, on faisait tout à l'heure en interview, on a fait Marcel Desailly, moi je l'ai vécu en 2004, c'est vrai que c'était un des élément fort, très fort, hein, de la sélection dans tous les cas. Le problème, c'est que quand tu es à 50% et que tu n'es plus à ton meilleur niveau, tu risques les blessures. Et puis, même dans le groupe, parce que le message que tu renvoies aux plus jeunes, et c'est pas forcément bon. Donc, moi, j'émets juste un doute sur la sélection à ce niveau-là.
Jeannot Reseguia, les compos d'équipe. On y va, Jeannot.
Alors, on commence par la Turquie, si vous voulez bien. Puisque la Turquie c'est Turquie face à l'Italie. Tchakir pour le gardien de but. Merach sur le côté gauche, c'est le joueur du Havre avec Soyuncu. Et Demiral pour la charnière et Çelik le Lillois pour le côté droit de la défense, et les trois Lillois seront titulaires puisque c'était la grande interrogation de savoir si Unders ou Yazidze allait être titulaire. Yazidze sera certainement côté gauche avec Toufan Chalaloglu derrière l'attaquant et capitaine Burak Ilmaz, autre Lillois champion de France, avec donc son brassard de capitaine. Okay Yokuchulu sur le côté droit du milieu de terrain et Karaman sur le côté droit offensif. Voilà pour l'équipe de la Turquie avec Senol Gunes, donc le sélectionneur. Pour Roberto Mancini, pas de surprise étant donné qu'il y a eu pas mal de forfaits au niveau du milieu de terrain, Sensi, Pellegrini, et qu'il y a toujours la blessure de Verratti. Barella, Jorginho, Locatelli pour le milieu de terrain. La charnière Bonucci, Chiellini dont vous parliez à l'instant, 34 ans et 36 ans. Donnarumma dans les buts, Florenzi sur le côté droit de la défense, Spinazzola sur le côté gauche, et les trois offensifs. À gauche, Insigne, à droite, Berardi, et dans l'axe, Immobile. Et voilà donc pour les choix des deux entraîneurs. Okay. Dani Makeli sera l'arbitre de la rencontre, il est néerlandais, et Stéphanie Frappard sera la quatrième arbitre.
Merci Jeannot, à tout à l'heure. La suite de l'avant-match à partir de 20h. Merci Johan Crochet,
merci
le spécialiste du foot italien. Merci, on accueille messieurs. Damien Jérôme. Salut Damien.
Salut Damien.
Bonjour à tous.
Salut Damien, là on a un beau cadeau. C'est Jean-Michel et moi, bien sûr. Exactement. Jean-Louis était là aussi à choisir. Donc tu as gagné ton voyage
dans un club Bellambra.
Exactement.
Une semaine dans un super club Bellambra.
Un petit conseil, bien, un petit conseil, va en Corse, il est très bien, à Bastia.
Je prends le conseil, merci Jean-Louis, merci Jérôme. Bonjour à Jean-Michel aussi.
Ouais.
Et bien avec
Jean-Michel, bonjour Jean-Michel, parce qu'il n'a pas fait grand-chose là-dessus. Hein.
Bravo Damien.
Non. Okay, j'ai juste été payé.
Bravo Damien.
Bravo Damien, passe de bonnes vacances. Et vous pouvez encore vous inscrire en envoyant vacances par SMS au 732-16. Il y aura un nouveau gagnant dans l'after ce soir.
Votre jeu sur RMC avec Bellambra. Chez Bellambra, mettez votre quotidien en vacances. Plus d'infos sur bellambra.fr.
Pour jouer, envoyez vacances par SMS au 732-16.
La balade de Raphaël Nadal à Roland-Garros face à Djokovic. Florent Serra, Eric Salio.
Ah ouais, c'est incroyable, 33 minutes de jeu et ça sent la bulle pour Novak Djokovic puisqu'il est mené 5 jeux à 0. C'est dingue parce que le début de match était vraiment accroché et Rafa a pris les commandes comme dans un combat de boxe, il a placé les uppercuts qui ont fait très mal à Djokovic et Florent, on voit pas comment il va échapper au 6-0. Même si maintenant il a lâché l'affaire, il se concentre déjà sur le deuxième set.
Oui, parce que bon, pour revenir, il va falloir passer plus d'une heure sur le court s'il veut remporter ce set. Ça va peut-être faire 5-1, mais c'est surtout le poids dans la balle hein, que met encore Rafa et qui pour moi gêne beaucoup Djokovic. Cette patte gauche qui le sort côté revers, il fait énormément de fautes côté revers. Novak Djokovic, il a pas le temps de décaler autour de son revers comme il veut ou d'aller le long de la ligne. Ouais. Donc c'est très très compliqué pour
ça. Ça va être compliqué. Merci messieurs. Dans un instant, le quiz de Roten Régal. À tout de suite.
RMC 18h-20h Roten Régal spécial UEFA Euro 2020.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h48 sur RMC, toujours dans Roten Régal. Allez, on finit 10 dernières minutes. Et 10 dernières minutes, Jean-Louis, c'est l'heure du quiz.
RMC Roten Régal.
Comment moi, je sais pas que Saint-Etienne a gagné plus de Coupe de France que Monaco.
T'as été moins réactif, c'est l'âge.
Quoi ? Pardon ?
Le quiz.
Allez, on y va pour le dernier quiz de Roten Régal, donc, avec Arthur et Pierre. Salut Arthur. Ouais,
salut tout le monde.
Salut Arthur.
Tu fais équipe avec Jean-Michel ?
Moi avec Jean-Michel, ouais.
Allez. Et Pierre est là, salut Pierre.
Pourquoi équipe avec Jean-Michel ?
Oui, bonsoir tout le monde.
Salut Pierre.
On est ensemble mercredi déjà,
Jean. Oui, c'est pour ça.
Salut Pierre, eh ben on va les écraser, t'es avec
moi
Pierre.
Ah bah c'est pas le Pierre, c'est pas le Pierre habituel.
Eh non, c'est un autre Pierre.
Non. Bah,
alors des questions sur l'euro et sur l'actu. Attention, c'est parti. Qui a dit aujourd'hui, Karim est probablement le seul numéro 9 que je connaisse qui n'est pas égoïste.
Pogba.
Non, c'est pas Pogba. C'est un ancien entraîneur de Karim Benzema. Parce que le Karim en
Mourinho. Question.
Ah oui, Mourinho, bien joué Arthur. 1-0 pour Mourinho, l'équipe Larquet. Jean-Michel, tu as le droit de jouer. Attention, qui a dit... qui a dit... On a envie de bien faire car on attend cela depuis longtemps. Alors c'est un joueur qu'on va voir Ronaldo. Sur la pelouse ce soir. Non, c'est pas Ronaldo.
Lorenzi.
Verratti.
Non.
Chiellini.
Oui, Chiellini. Bien joué Pierre.
Non, c'est Arthur. Non, c'est Arthur.
Bien joué Arthur. Ah. 2-0. Attention.
Il nous embête, Arthur. Là.
Qui a dit aujourd'hui, avec Werner, il faut bien anticiper la profondeur. Attention.
Ah oui, Varane.
Non,
c'est un de ses joueurs.
Oui.
Zouma.
Oui, Zouma, bien joué.
Arthur Zouma.
Là, il jouait.
Bien joué, Pierre. 2-1. Bravo, Captain, tu avais tout, mais tu n'as pas réussi à le remplacer.
T'étais pas loin.
Alors, vous savez, le match du soir, bien sûr, le premier match de l'Euro, Italie-Turquie. Quel est le deuxième match de l'Euro?
Suisse-Pays-de-Galles.
Oh, bien joué Arthur, énorme.
Voilà, celui-là j'étais à la
Suisse-Pays-de-Galles, c'est demain. Demain 15h sur RMC, bien sûr. Qui a fini meilleur buteur du précédent Euro?
Griezmann.
Oui, Arthur, Griezmann. Bon, Arthur, il est trop fort. Voilà, 4-1. Je rappelle que Jérôme est
Capitaine,
vous avez déborder, le droit de jouer.
Là, il y a un décalage.
Je ne déborde pas Jérôme là ce soir.
Non, non, là je suis...
Alors attention, question juste pour Jérôme et Captain.
Ah, voilà.
Voilà. Là, au moins. Donnez-moi un des deux latéraux des Bleus en 2016.
Pavard.
2016.
Sania,
bien joué Jérôme. 4-2. Mmh. Et l'autre? L'autre côté?
L'autre?
Oui.
Bah, l'autre, Evra.
Oui. Evra, bien joué Jérôme.
Bien sûr, allez hop, 2-3.
Non, 2-3.
4-3.
Donnez-moi un des deux meilleurs buteurs de l'histoire de l'Euro.
Ronaldo.
Platini. Vous avez
moi,
pris les deux.
Voilà.
Et c'est Pierre qui a donné l'autre?
Non, c'est Pierre. Ouais.
Bah, Pierre. Ça fait 2 points.
Ça fait combien?
5-4,
oui.
Hey, c'est Arthur.
Non.
Arthur, il a dit Ronaldo, ou quoi? Moi, j'ai dit Platini.
Ok, c'est Arthur qui a dit Ronaldo. Donc ça fait 1 point chacun. Ok.
Chacun.
Ce qui fait 5-4 pour l'équipe Larquet. Quel suspense, ça. Il reste 2 minutes. Je ne sais plus où me mettre. Mm-hmm. Attention. Donc, derrière Platini, donnez-moi un Français qui est dans le classement des meilleurs buteurs de l'Euro. Juste derrière Platini. Ouais, Thierry Henry, bien joué. Mais là, vous l'avez dit en même temps, non?
Ouais.
J'ai l'impression.
Ouais, on l'a dit
Pierre,
en même temps.
Donc c'est bon, on est dans la.
Ah, c'est Pierre là. Non, c'est Pierre en premier.
Oui, d'accord, oui, bien sûr. Oui. Tu as même
bien sûr, 5-5.
Une écho, toi.
5-5, non, exactement. 5-5. Non, 5-5, là, il y a égalisation. Qui a fini meilleur joueur de l'Euro 2000?
2000?
Zidane.
Ouais, Zidane, bien joué. C'est Arthur?
Non, c'est Pierre.
C'est Pierre. 6-5.
6-5. Attention, qui a été le premier vainqueur de l'Euro?
URSS.
Ah, là,
bien joué,
c'est
l'arqué.
Bien joué,
non, non, URSS l'arqué. URSS l'arqué, il a 3 secondes de décalage. Et je l'arqué, je l'ai dit en premier. Non, 1960. Non, non, ça va, ça va. Ça va, ça va. Oui, tu l'as dit aussi après. Non, non, mais là, j'arrête. Là, j'arrête, c'est pas possible.
Alors, t'es évidemment captain. Mais c'est captain, j'ai fait exprès pour le faire marcher.
Si, c'est Jean-Michel.
C'est Jean-Michel.
C'est Jean-Michel. Et en plus, c'est une question pour toi.
Exactement.
Exactement.
Bien sûr.
Donc là, il y a égalité. Donc là, on joue toute la saison des quiz de Rotten Régal sur une question.
Sur
non mais c'est incroyable. Voilà, quel scénario.
La Golden Carotte dans le quiz de Rotten.
Exactement. Ouais. Attention. Qui a fini meilleur joueur de l'Euro 96
Un Danois, Laudrup.
Non, pas Laudrup.
Van Basten.
Pas Van Basten. Schmeichel. Pas Schmeichel. 96.
Gascoigne.
Non, pas Gascoigne.
96. C'est quoi Biroff, Klinsmann.
Non, non.
Matthäus.
Non.
96. Summer.
Summer, Jérôme. Victoire de Pierre et Jérôme.
Et oui, bravo. Il a eu le ballon d'or.
Magnifique.
Et oui.
Et après, il va te faire des raisonnements. Après 5 propositions, il dit oui, il a eu le ballon d'or. Bah oui, oui, bien sûr.
Je te promets, je réfléchissais. Je dis qui a gagné le ballon d'or cette année-là.
Et bravo Jérôme et bravo Pierre. Le score à Roland entre Djokovic et Nadal. Eric Salio.
Bonsoir. Attends.
5-1 pour Rafael Nadal qui est au service. 40 ans, donc il était à 2 points de prendre cette première manche après 43 minutes de jeu. Donc vous l'avez compris, Djokovic a évité l'humiliation de la bulle. C'est vrai que ça s'est rééquilibré depuis une dizaine de minutes, Flo. Ouais.
Mais pour l'instant, on retrouvera Florent Serra dans la soirée. On suit cette rencontre. Mais donc voilà, c'est la fin de Rotten Régal cette saison. Merci.
Magnifique. Merci à toi, Jean-Louis. Merci régalé. À Jean-Michel.
Ça continue encore et encore.
Reste connecté, Captain, et tu auras des infos. T'inquiète pas.
Qu'est-ce qui continue on arrête là.
Rotten Régal, je sais pas.
Ouais. Écoute, Rotten Régal a été bien cette année. On s'est bien régalé. Et maintenant, en route pour l'Euro.
Exactement.
Voilà, je remercie tout le monde, tous les auditeurs, et bien sûr.
Dans un instant, l'intégrale UEFA Euro 2020. Et évidemment, Jérôme et Capren.
Bon, Antoine.
Vous serez là, Antoine Varnier, notre producteur. Ah, oui. Vous serez là pendant l'Euro sur RMC pour commenter toutes les rencontres. Et ça commence dans un instant. Cérémonie d'ouverture et le premier match entre la Turquie et l'Italie. Ciao.